Bien, avec votre permission, nous allons débuter cette journée. Merci de rejoindre vos places. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de l'espace Pierre Mendès France. Donc, un petit mot d'accueil et un petit mot aussi pour vous redire où vous êtes. Vous êtes donc à l'espace Mendès France de Poitiers, si vous n'y êtes pas déjà venu. C'est un centre de culture scientifique qui est labellisé par le ministère de la Recherche depuis une dizaine d'années et qui vient de toucher un nouveau label suite à un audit de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, un label qui s'appelle Sciences et Culture Innovation, que nous allons en principe recevoir demain au ministère de la Recherche. Vu les mouvements qu'il y a actuellement, je ne sais pas si on ne va pas faire ça dans la rue, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc, notre centre a pour vocation de mieux rapprocher nos concitoyens des grandes thématiques scientifiques, techniques et technologiques. Nous avons reçu un peu plus d'1 200 000 personnes sur les 15 dernières années. Et nous avons un gros travail aussi de déploiement en région Poitou-Charentes, à travers des actions comme la Fête de la Science, la science se livre dans les bibliothèques et les centres de documentation, mais également des labels comme Images de Science ou des opérations d'itinérance. Alors, concernant le thème qui vous préoccupe aujourd'hui et qui mobilise beaucoup de gens en ce moment, pas seulement en France, mais aussi en Occident, sur les questions de l'évolution, notre structure a eu la chance depuis une quinzaine d'années de travailler avec plusieurs laboratoires de l'Université de Poitiers, dont celui de Michel Brunet, laboratoire dédié principalement à la paléontologie et à tout ce qui relève des hominidés, des origines de l'homme. Et nous avons la chance ici depuis 15 ans de pouvoir suivre en direct ce qui se passe au cœur des labos, au cœur des réseaux scientifiques. Et force est de constater que la question de l'évolution telle qu'elle est envisagée, elle est autant scientifique que politique. Elle est autant une question de spécialiste que bientôt une question citoyenne. Donc à ce titre-là, notre établissement ne pouvait être absent à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de Darwin, ne pouvait être absent de cette thématique, mais c'est une thématique que nous regardons de très près et que nous présentons depuis déjà plus de 10 ans. Nous avons organisé ici, voici quelques semaines, une soirée dédiée à la question de l'évolution et à sa place actuelle dans la société, et l'évolution au regard d'un certain nombre de grandes tendances, comme le créationnisme par exemple. Et il est ressorti de cette soirée de décembre que la théorie de l'évolution et que l'évolution telle qu'elle était présentée posait de nombreux problèmes auprès de nos concitoyens. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'étranger, parce que je suis allé en Belgique il y a peu de temps et on s'est rendu compte qu'il y avait de gros gros problèmes. Revenir au concept lui-même, pouvoir le présenter, pouvoir en débattre et revenir sur un certain nombre de thèses qui ont actuellement le vent en poupe pour des raisons que je citais tout à l'heure, qui sont des raisons politiques. Donc dimension scientifique, dimension politique, il est bien évident que vous aurez toutes et tous à vous confronter à tout cela, parce que une chose est d'enseigner des éléments scientifiques rationnels quels qu'ils soient, une autre chose est, à l'intérieur même d'une séquence pédagogique ou d'une présence dans un cours, de se trouver confronté à des éléments irrationnels qui viennent de dimensions familiales, qui viennent de dimensions religieuses, contre lesquelles bien souvent les enseignants ont du mal à se positionner. Et ça, c'est vrai pour l'évolution, mais c'est vrai aussi, et ça sera vrai aussi pour d'autres sujets qui sont en train d'émerger. Voilà, donc l'espace Mendès France tient et tiendra à être présent aux côtés des défenseurs d'une science ouverte et ouverte à tous, dans un cadre que nous estimons indispensable, au-delà de la culture scientifique et de sa dimension d'éducation aux sciences. Il y a aussi une dimension démocratique que nous défendons dans cette maison. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques jours, le 10 mars exactement, nous ouvrirons une exposition sur l'évolution qui sera tout à fait originale, parce qu'elle n'aura rien de commémorative, elle sera plutôt un rappel de tous les concepts qui permettent de mieux comprendre cet aspect de l'évolution. Donc c'est une exposition de 350 mètres carrés que nous sommes en train de produire avec plusieurs labos de l'Université de Poitiers et du CNRS. Et donc vous y serez bien entendu les bienvenus, parce que le parcours qui vous sera présenté vous donnera là aussi des outils à intégrer vraisemblablement à vos préoccupations d'éducateurs, d'enseignants, de pédagogues. Donc merci à tous et bon travail. Je passe la parole à Mario Cotron, président de l'Espace Mendès France depuis quelques jours et surtout directeur adjoint de l'IUFM Poitou-Charentes.
Merci Didier. À mon tour, je suis ravi de vous accueillir pour cette journée d'études. Ravi à deux titres, donc comme tout récent président de l'Espace Mendès France. Et il me semble que cette journée et la thématique est assez significative de la programmation et de l'esprit de cette maison. C'est ce que rappelait Didier. S'appuyer sur une thématique scientifique en rappeler l'histoire de la discipline, examiner les développements récents, ça c'est l'aspect scientifique, intégrer les questions, les interrogations, le débat de société autour de cette thématique, et aussi faire appel au relais naturel de la culture scientifique que sont les enseignants et le monde éducatif. Donc il me semble que c'est tout à fait significatif des activités qui se développent de plus en plus dans cette maison. La journée d'études, la soirée d'études sur ce thème mi-décembre et l'exposition qui va ouvrir dans quelques jours. Et donc ravi aussi de vous accueillir en raison de mes fonctions à l'UFM. J'ai eu bien souvent l'occasion de parler avec des enseignants de biologie, mais pas simplement de biologie, et les interrogations qu'ils se posent pour aborder cette thématique, transmettre les fondements scientifiques, mais aussi être à l'écoute des interrogations des collégiens, lycéens, qui traduisent les interrogations de la société, me semble quelque chose d'essentiel. Et donc je suis ravi de voir ici pas mal de formateurs de futurs enseignants, sans aucun doute de futurs enseignants aussi, des étudiants préparant les concours, et des collègues en poste dans les établissements. Cette journée a été préparée par, sous la responsabilité de Pascal Duris, professeur à Bordeaux, professeur des universités. C'est un habitué de la maison avec lequel on a collaboré sur des stages d'histoire des sciences dans le cadre de la formation continue des enseignants, et fait appel aussi à l'expertise d'Anne Bonnefoy, responsable dans cette maison du pôle Histoire des sciences. Je vous souhaite une excellente journée et je suis certain qu'elle sera riche de ressources pour vous. Pascal.
Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a confié d'une certaine manière la responsabilité de cette journée. Je voudrais vous dire que vous avez vu à l'entrée qu'on vous a distribué quelques petits documents complémentaires qui vous donneront des éclairages un petit peu sur ce que diront les différents intervenants. Vous avez une bibliographie générale autour des idées sur l'enseignement. Vous avez aussi quelques orientations bibliographiques des différents intervenants. Puis vous avez une présentation aussi d'un film que vous avez peut-être vu lundi soir sur France 5, Espèces d'espèces. Donc la journée, je ne vais pas vous commenter le programme. De toute façon, vous l'avez sous les yeux. Je veux remercier quand même tous les intervenants qui ont accepté d'intervenir dans cette journée. Bon, vous allez les découvrir au fur et à mesure, mais pour certains d'entre eux, vous les connaissez par ailleurs. On va parler de l'évolution aujourd'hui, comprendre, enseigner la théorie de l'évolution. Vous savez que 2009, contrairement à ce qu'on croit, c'est l'année internationale de l'astronomie. Évidemment, on n'a aucune raison d'être là, mais on pourrait aussi imaginer que 2009, ce soit le bicentenaire de la naissance de Darwin. Ça, c'est vrai, c'est le 150e anniversaire de la publication de l'origine des espèces par Darwin. Et puis aussi, quand même, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est le bicentenaire de la publication de la philosophie zoologique de Lamarck. Je crois qu'il faut vraiment éviter de dissocier ces deux auteurs, parce qu'évidemment, on ne prête qu'aux riches, donc on risque en 2009 de n'entendre parler que de Lamarck, que de Darwin, justement. Et si vous regardez la production éditoriale en librairie, depuis un mois, pour l'instant, Lamarck a un peu de retard. Par contre, en plus, mon camarade Thierry Hoquet a sorti un livre, vous avez peut-être vu, qui s'appelle Darwin contre Darwin, donc vous avez deux Darwin pour le prix d'un dans le même livre. Donc là, vraiment, ça va être difficile. Alors, mon propos ce matin, donc le programme est très simple. Vous voyez, ce matin, un petit propos autour d'une mise en perspective, on va dire, des idées sur l'évolution. À partir de quand on a pris conscience que les espèces n'étaient pas fixes. Voilà, on va être prudent. Ensuite, Pascal Tassy, pour des développements autour de la paléontologie, l'importance des fossiles dans la théorie de l'évolution. On va la voir émerger justement à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Ensuite, Guillaume Lecointre, qui tâchera de vous éviter de tomber dans un certain nombre de pièges pour enseigner la théorie de l'évolution. Les deux premières conférences, on va les enchaîner l'une derrière l'autre, à moins qu'entre-temps vous ayez des questions qui vraiment vous préoccupent au plus haut point, et puis on fera une discussion groupée, et puis après la pause, ce sera Guillaume Lecointre qui aura une discussion tout de suite après sa conférence. L'après-midi, c'est donc Marc-André Sellos, pour un aspect que je trouve là aussi, on a souvent tendance à oublier, c'est la participation des plantes et des botanistes, du même coup, dans une réflexion sur la théorie de l'évolution. Francesca Merlin, ensuite, sur la notion de hasard, puisque finalement, c'est quand même une des questions centrales dans cette théorie de l'évolution. Et puis en dernier lieu, dans la dernière intervention, sur le néo-créationnisme en Europe. Bon, c'est en filigrane derrière cette réflexion, mais pour ma part, je souhaite que ce ne soit que en filigrane, puisque ce sont des questions auxquelles, vous, en tant qu'enseignant, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes confrontés. Ce sont des questions qu'on va évoquer nous aussi dans un premier temps, mais je souhaitais aussi que vous ayez une information précise sur ce renouveau du créationnisme en France et plus généralement en Europe. Voilà le programme. Entre-temps, évidemment, vous intervenez quand vous voulez. On est entre nous. Donc aujourd'hui, je voudrais moi vous parler de l'histoire des idées sur l'évolution. Vous dire que finalement, jusqu'au début du XVIIIe siècle, les choses étaient assez simples. Parce que jusqu'au début du XVIIIe siècle, les naturalistes, donc on va englober sous ce terme de naturalistes les botanistes, les zoologistes, tous ceux qui étudient la nature, les naturalistes considéraient que le monde avait été créé par Dieu. Il y a environ 6000 ans, lors de la semaine de la création, c'est-à-dire 6 jours de 24 heures. Alors pourquoi 6000 ans ? Eh bien parce que les exégètes de la Bible, ceux qui étudient véritablement la chronologie, la biographie des différents protagonistes, si on peut dire, de cet ouvrage, eh bien considéraient que, en cumulant un peu les vies des uns et des autres, le monde avait été créé le 23 octobre 4004. Avant notre ère. Et même quand on les pousse un peu dans leur retranchement, ils disaient que ce monde avait été créé, c'était un dimanche, le 23 octobre, et même c'était plutôt à 9h du matin. Donc quand on dit que pour les auteurs de cette époque, jusqu'au début du XVIIIe siècle, le monde a 6000 ans, c'est pas une vue de l'esprit, c'est le fait qu'il y a de la part de ces naturalistes une fidélité totale à une lecture littérale de la Bible qui leur dit que grosso modo, lorsqu'ils se penchent sur ces questions au XVIIe ou au XVIIIe siècle, le monde a été créé 4004 ans avant. Je sens bien que la question vous préoccupe, donc sachez qu'Adam et Ève ont été sortis du paradis terrestre le lundi 10 novembre 4004 avant Jésus-Christ, etc., etc. Tous les principaux événements relatés dans la Bible sont considérés comme des vérités et constituent le point de départ de la réflexion des naturalistes. C'est pareil pour le déluge, c'est pareil donc pour la création à bâtonner, oui, voilà par exemple, la création du paradis terrestre. Tout ce qui est relaté, sans mauvais jeu de mots, dans la Bible est parole d'évangile. Donc tous les récits, le récit de la création en six jours, j'y ai fait allusion, l'idée d'un paradis terrestre, on ne se pose pas suffisamment la question de savoir où est le paradis terrestre. Mais le paradis terrestre, pour beaucoup d'auteurs, il est sur Terre. Et vous avez par exemple ici en 1691, cet ouvrage que vous pouvez facilement télécharger sur Gallica, eh bien vous avez cet ouvrage qui réfléchit sur les différentes propositions qui ont été faites par les auteurs à cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, pour savoir où était précisément le paradis terrestre. Donc c'est une réalité, et les naturalistes considèrent au fond que Adam, par exemple, a été le premier des naturalistes. C'est à lui que Dieu a confié la lourde tâche de nommer pour la première fois, de donner un nom aux différentes espèces animales et végétales qu'il venait de créer. Donc on réfléchit sur la situation du paradis terrestre et puis on aboutit à une localisation. Donc vous allez savoir où passer vos vacances prochaines. Vous voyez ici que vous avez la province d'Éden avec ici le paradis terrestre. Et ça, ça correspond à une région précise de la planète Terre. Évidemment, peut-être que vos vacances risquent d'être un peu compromises puisque vous voyez ici Golfe Persique, Arabie heureuse, heureuse époque. Et en gros, à cette époque-là, ça correspond à la région de Bassora ou de Bagdad aujourd'hui. Et inévitablement, lorsque vous avez ça présent à l'esprit, Vous dites, sans trop faire d'anachronisme, mais que si les Américains y ont mené une guerre à plusieurs reprises dans ces lieux-là, eh bien, c'est peut-être qu'ils veulent renouer, en tout cas avec la recherche d'un certain paradis perdu. Mais là, je pense qu'il faut quand même se garder de ce genre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont une réalité concrète, une réalité concrète. Et jusqu'au début du XVIIIe siècle, au fond, la mission, si je puis dire, des naturalistes, c'est de mettre en accord leur savoir scientifique et leurs convictions religieuses. Bien sûr, tous les auteurs sont profondément croyants, et ils développent, dans le cadre de cette croyance biblique, tout simplement, eh bien, des sciences naturelles. Par exemple, au XVIIIe siècle, celui qui incarnera par excellence cet esprit. Alors, cet esprit comment ? Cet esprit créationniste. Et là aussi, hein, c'est juste une petite précision, mais attention, lorsqu'on parle du créationnisme pour le XVIIIe siècle notamment, c'est, au fond, c'est le modèle de pensée de l'époque. Il n'y a pas du tout à avoir un jugement négatif, c'est l'état des connaissances du moment. On est convaincu que le monde a été créé par Dieu. On est convaincu que le monde a été créé par Dieu, qu'il a créé les espèces, une à une, distinctement les unes des autres, qui les a placés au paradis terrestre, et que depuis lors, c'est-à-dire le 23 octobre 4004, ou presque, eh bien, depuis lors, aucune espèce animale ou végétale n'a disparu, et corrélativement, aucune espèce nouvelle n'est apparue en cours de route. C'est-à-dire qu'on décrit un monde donc dicté par ce qu'on appelle le créationnisme, qui se réfère au discours de la création tel qu'il est exposé dans la Bible, dans les premiers chapitres, la Genèse, et on décrit un monde fixe, immuable, éternel. On parle donc de, pour cette période-là, on va dire jusque dans le premier tiers du XVIIIe siècle, du créationnisme fixiste. Alors tous les créationnistes de cette époque sont fixistes. Un certain nombre de fixistes ne sont pas nécessairement créationnistes. Mais enfin, en gros, on va dire que jusqu'au premier tiers du XVIIIe, inéluctablement, les naturalistes doivent se positionner dans le cadre de ce créationnisme fixiste. Et puis, dans le premier tiers du XVIIIe, donc, un certain nombre d'auteurs qu'on appelle... Alors pas d'enthousiasme excessif, des esprits libertins, c'est-à-dire, au fond, des gens qui commencent un peu à douter de l'existence de Dieu, vont s'intéresser à ces questions de l'origine du vivant, de son développement sur Terre, et s'ils commencent à douter de l'existence de Dieu, au fond, ils commencent à douter que l'univers ou la Terre ou les espèces telles que nous les connaissons aient été créées par Dieu. Et à partir de là, eh bien, ils peuvent entamer une démarche intellectuelle qui va progressivement les libérer du cadre biblique chronologique très contraignant, avec cette idée que la Terre a 6000 ans. Alors, parmi ces auteurs, vous avez un auteur qui s'appelle Benoît de Maillet, Benoît, ben, comme Benoît, D-E, et puis Maillet, M-A-I-2-L-E-T, qui meurt en 1738 et dont on publie 10 ans après sa mort, ici en 1748, un ouvrage qui porte un titre bizarre, Stéliamède, mais en fait pas si bizarre que ça, c'est son nom à l'envers, il s'appelle De Maillet, donc le titre de son ouvrage s'appelle Téliamède, et c'est le sous-titre du livre qui est important pour notre propos, puisque c'est l'entretien d'un philosophe indien avec un missionnaire français, mais sur la diminution de la mer, la formation de la terre et l'origine de l'homme. C'est-à-dire que vous avez un auteur qui, au fond, va développer un certain nombre d'idées sur ces questions, qui nécessairement vont rentrer en opposition avec ce qui a pu en être dit de tous ces événements dans la Bible, puisque au fond, ce qui est contenu dans la Bible est considéré comme un savoir vrai, définitif, il n'y a aucune raison d'y revenir. Si un auteur y revient, c'est donc qu'il va faire une proposition d'explication de ces différents aspects, différents de ce qu'on trouve dans la Bible. Et en effet, Benoît de Maillet imagine que la vie s'est développée sur Terre à partir de semences, de graines, de germes, plutôt de semences, qui sont répandues de toute éternité dans l'univers, théorie qu'on appellerait aujourd'hui, ou à l'époque déjà, théorie panspermique. Et ces semences, à un moment ou un autre de leur histoire, de leur errance dans l'univers, sont tombées sur Terre. Et Benoît de Maillet imagine que cette Terre primitive, on est là donc en 1748, pour la date de la publication de ce livre, il imagine que cette Terre primitive était à l'origine entièrement recouverte par les eaux, ce qui fait que dans son esprit, au fond, lorsque les semences venues de l'univers sont tombées sur Terre, elles sont en fait tombées dans l'eau, et elles ont donné naissance ainsi aux premières formes de vie sur Terre, qui, de son point de vue, ont été des formes de vie marines, des formes aquatiques. Et puis, dit-il, au fil des temps, dans l'esprit de Benoît de Maillet, qui n'est pas à proprement parler un naturaliste, qui est plus un écrivain, un voyageur, dans son idée, c'est pas 6000 ans, c'est sur des milliards d'années, mais il n'a pas de contraintes scientifiques particulières. Au fil du temps, dit-il, les eaux des océans ont commencé à se retirer, les continents ont commencé à émerger, et dès lors, toutes les formes de vie qui jusqu'alors, de son point de vue, étaient exclusivement marines, puisqu'il n'y avait que de l'eau, eh bien, dit-il, c'est le verbe qu'il emploie, ont dû s'accoutumer à vivre sur Terre. Et c'est ainsi, par exemple, dit-il, que les poissons volants, qui vivaient quand même plutôt dans l'eau, ont progressivement, au cours du temps, donné naissance aux oiseaux, que les poissons qui vivaient un peu plus en profondeur ont donné naissance aux animaux terrestres, et c'est ainsi que l'homme est apparu, l'homme qui, dans son esprit, à Benoît de Maillet, était au départ un homme marin, un homme aquatique, et puis qui, sous l'effet du retrait des eaux progressif, eh bien, est devenu un homme aérien. La preuve, dit-il, c'est que lorsqu'on observe l'épiderme, la peau de cet homme au microscope, on voit qu'elle est faite de petites écailles comme l'est celle d'une carpe. C'est bien la preuve, de son point de vue, que nous avons une origine marine. Alors ça ne doit pas particulièrement nous surprendre. Il faut évidemment la tempérer notre enthousiasme en voyant Benoît de Maillet un précurseur d'une théorie ultérieure qui nous serait familière. Regardez les images que l'on a à son époque. Elles ne sont pas extraites du livre de Benoît de Maillet, mais regardez à gauche ces gravures très célèbres. Monstre marin ayant la tête d'un moine. Bon, pourquoi en douter, évidemment. Et puis un monstre marin en habit d'évêque. Eh bien, vous avez typiquement là des créatures intermédiaires, c'est-à-dire qui sont hommes, humaines, mais qui sont aussi marines, recouvertes d'écailles. Donc, d'une certaine manière, l'idée que ces créatures existent dans la nature apporte de l'eau, sans mauvais jeu de mots, au moulin de Benoît de Maillet. Et puis ici, d'autres gravures qui ne sont toujours pas extraites du livre de Benoît de Maillet, mais qui, d'une certaine manière, en donnent des illustrations. Un homme cyclope, une femme velue, un homme unijambiste. Eh bien, Benoît de Maillet aussi, se libérant complètement du discours biblique, imagine que finalement l'espèce humaine peut prendre des formes extrêmement variées, comme celle qu'il décrit, des hommes d'un seul pied qui ne rient jamais et se déplacent en sautillant. Bon, s'il les a vus, s'il les décrit. Et vous voyez que la contrepartie de tout ça, c'est qu'il dégrade aussi l'image de l'homme. Tant que l'homme, dans le discours biblique, est créé par Dieu à son image, bon, on n'imagine pas qu'il puisse s'incarner sous une de ses formes ou une autre. Eh bien, Benoît de Maillet, si, l'imagine. Donc, vous voyez ici, en 1748, avec cet ouvrage qui paraît donc 10 ans après la mort de Benoît de Maillet, on change complètement la manière d'envisager l'histoire du vivant et aussi l'histoire de la Terre, parce que les deux sujets sont liés. Tant que la Terre n'a que 6000 ans d'âge, d'une certaine manière, les naturalistes sont embarrassés, seraient embarrassés, mais à vrai dire, ils n'éprouvent pas ce sentiment à l'époque, ils seraient embarrassés pour proposer des mécanismes qui ne pourraient se comprendre que sur de longues périodes de temps. Et c'est donc chez ces auteurs libertins, chez, au fond, des auteurs athées, des auteurs matérialistes, qui nient l'existence de Dieu, ou en tout cas qu'ils dispensent d'avoir créé le monde tel que nous le connaissons, que l'on trouve les premières pensées, alors ni transformistes, ni évolutionnistes, mais en tout cas les premières pensées non fixistes, non créationnistes, déjà dans un premier temps. Avançons un petit peu lentement, non créationnistes. L'autre grande figure, par la suite, alors ce serait évidemment un philosophe Maupertuis, j'ai passé date ici, mais enfin en gros son œuvre date des années, vous voyez, 1750. Alors Maupertuis, on franchit une autre étape parce que lui, il est convaincu que des espèces nouvelles ont pu apparaître au cours du temps. Là encore, si vous êtes profondément croyant que vous référez au seul récit de la Bible, il vous est impossible d'imaginer que des espèces nouvelles puissent apparaître, parce que ça voudrait dire qu'elles apparaissent indépendamment d'un acte créateur divin, indépendamment d'une volonté divine. Bon, Maupertuis imagine cette possibilité, et on avance un peu, puisque lui, il imagine que ces espèces nouvelles n'auraient dû leur première origine qu'à quelques productions fortuites dans lesquelles les parties élémentaires n'auraient pas retenu l'ordre qu'elles tenaient dans les animaux père et mère. Et chaque degré d'erreur aurait fait une nouvelle espèce, et à force d'écarts répétés serait venue, dit-il, la diversité infinie des animaux que nous voyons aujourd'hui, et qui s'accroîtra peut-être encore avec le temps. Alors vous voyez, typiquement, tous les auteurs non créationnistes font toujours intervenir la dimension temporelle des phénomènes. Lorsque, jusqu'au début, donc, je vous dis, premier tiers du XVIIIe siècle, les auteurs créationnistes fixistes, le temps n'existe pas, puisque le monde qu'ils étudient est strictement identique à celui que Dieu a créé il y a 6000 ans. Et pour repérer, d'une certaine manière, un auteur qui se libère de ce cadre biblique, eh bien, vous le voyez facilement lorsqu'il justifie ou lorsqu'il explique les phénomènes dont il rencontre par la dimension temporelle qu'ils ont pris au fond. mais à laquelle peut-être la suite des siècles, à nouveau, n'apporte que des accroissements imperceptibles. Lui, vous voyez, il imagine qu'à chaque génération, au fur et à mesure de la reproduction d'une espèce ou des individus entre eux, eh bien, peuvent intervenir ce qu'il appelle des productions fortuites, et que ces productions fortuites eh bien, se transmettent à la descendance. On a déjà chez Maupertuis quelque chose de fondamental dans les théories ultérieures qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Hérédité des caractères acquis, qui va être évidemment à l'honneur, notamment dans les théories de Lamarck et de Darwin. Troisième auteur avec lequel on avance aussi considérablement, c'est Buffon. B-U-2-F-O-N, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, mais vous n'en voudrez pas, on va l'appeler Buffon entre nous. Faites attention, hein, pour ceux d'entre vous qui sont dans l'enseignement, Buffon est aussi le nom du gardien de but de l'équipe nationale d'Italie. Et je n'ai pas besoin de vous dire que... Enfin bon... Alors, il est né en 1707, il est mort en 1788. Il y a aussi la version Buffon dans les copies, mais bon. Il est né en 1707, il est mort en 1788. Alors, avec Buffon, on franchit une nouvelle étape, si l'on veut. C'est un des grands ennemis adversaires de Linné, hein, dont on a évoqué tout à l'heure le nom. Linné étant créationniste, fixiste, résolu, on se dit que son adversaire doit sans doute l'être un peu moins. On n'a pas tout à fait tort, et en effet, on trouve dans l'œuvre de Buffon des aspects intéressants. Premier aspect, Buffon va, d'une manière, on va dire cette fois-ci un peu rigoureuse, un peu scientifique, affirmer que l'âge de la Terre n'est pas de 6000 ans, mais que l'âge de la Terre est de 75 000 ans. Alors bien sûr, pour nous aujourd'hui, 75 000 ans, 6000 ans, ça ne se fait pas de mal. Ce qui compte, c'est que Buffon ose, à partir d'arguments expérimentaux, affirmer que l'âge de la Terre n'est pas les 6000 ans que lui prête la Bible, mais 75 000 ans. Pourquoi cette idée ? Eh bien parce que Buffon imagine que la Terre était à l'origine un morceau de soleil. Une comète est passée à proximité du soleil, a raté le virage, a emporté avec elle un certain nombre de morceaux de soleil. Chacun de ces fragments a constitué les différentes planètes du système solaire, dont la Terre. Et dès lors, Buffon estime que la Terre, dans sa nouveauté, comme dirait Lucrèce, eh bien que cette Terre a dû nécessairement refroidir pour voir des formes de vie se développer à sa surface. Et le temps nécessaire au refroidissement de cette planète Terre originelle, eh bien Buffon l'évalue de manière expérimentale, en faisant des expériences dans ses forges à Montbard, à côté de Dijon, l'évalue à 75 000 ans. Immédiatement, la faculté de théologie à la Sorbonne le rappelle à l'ordre, et Buffon... diplomate ou hypocrite, ça dépend du point de vue qu'on adopte, dit à la faculté de théologie, oui, vous avez raison, j'ai dit 75 000 ans, mais non, c'est 6 000 ans, en fait, qu'il faut lire. En fait, on est tout à fait convaincu que Buffon sort totalement de cette chronologie biblique, et dans ses manuscrits, dans des choses qu'il n'a pas publiées, il défend même plutôt l'idée que l'âge de la Terre serait de 3 millions d'années. C'est-à-dire que lui, il se sent vraiment très à l'étroit dans la chronologie biblique, propose cette idée-là, et à partir de là, eh bien, il propose une théorie sur l'origine de la vie, qui est en même temps une théorie géologique sur l'histoire de la Terre. La Terre, un morceau de soleil, qui va mettre pratiquement 35 000 ans à atteindre une température favorable à l'apparition de la vie, et cette vie apparaît donc au bout de 35 000 ans, nous dit Buffon. Elle apparaît où ? Elle apparaît dans les océans, dans les matières liquides, dans des conditions, dit-il, physico-chimiques qui n'existent plus aujourd'hui et qui vont favoriser l'agrégation, l'agglomération de ce qu'il appelle des molécules organiques. Et partant de là, en fonction du degré de chaleur, à partir de 35 000 ans, vont apparaître, nous dit Buffon, spontanément, toutes les formes de vie que nous connaissons aujourd'hui. Et naturellement, en toute logique, vont apparaître en premier les formes de vie qui vivent aujourd'hui sous les climats chauds. Et en particulier, il divise l'histoire de la Terre en sept époques. Hein, il publie sa théorie en deux temps. En 1749, dans un premier temps, il y affirme déjà l'âge de la Terre de 75 000 ans. Et puis en 1778, où il publie sur cette question un ouvrage à part entière, et dit-il, eh bien, à partir de 35 000 ans, les premières formes de vie apparaissent. Et par exemple, à la cinquième époque, eh bien, naissent spontanément à la surface de la Terre les éléphants et les animaux du midi, comme il dit, c'est-à-dire les animaux qui vivent dans les climats chauds. Imaginez votre surprise, vous vous promenez à cette époque, et pof, spontanément, une girafe, un hippopotame, un éléphant se forment spontanément devant vous. Bien sûr, il faut comme toujours en histoire des sciences, ne jamais rétrospectivement porter une appréciation sur l'œuvre de ces auteurs. Ce qui compte, c'est que vous voyez qu'on se libère complètement d'une vision biblique ou divine du monde. Donc, les animaux des climats chauds apparaissent en premier. Ils apparaissent, dit-il, au niveau des pôles, là où la Terre, de son point de vue, se refroidit en premier, et puis ensuite colonise l'ensemble de la planète Terre. Alors vous voyez qu'il y a des éléments là encore, hein, comme chez Benoît de Maillet, qui nous sont familiers. Fondamentalement, ce qui compte avec Buffon, c'est que là, on a un vrai savant qui, à partir d'une approche expérimentale, affirme que l'âge de la Terre doit se compter en dizaines de milliers d'années, voire en millions d'années. Est-ce qu'on est dans une théorie... Alors on est dans une théorie, évidemment, non créationniste. Aucune référence au discours biblique. Buffon va mourir athée. Il est matérialiste sur un grand nombre de points. Donc, aucune référence à ce récit de la création. Est-ce qu'il est fixiste ou est-ce qu'il est déjà un peu difficile de le dire? Ce qu'on peut constater quand même, hein, pour ne pas trop moderniser sa pensée, c'est que chez Buffon, il n'y a pas de filiation entre les espèces, pas d'idée de parenté, puisque chacune des espèces que nous connaissons aujourd'hui apparaissent distinctement les unes des autres, alors non pas par Dieu, créées par Dieu, mais par génération spontanée. Et au fond, la seule chose, le seul élément qui dicte leur apparition sur Terre, c'est la décroissance progressive de la température. Voilà. Bon, alors voilà pour Buffon qui meurt en 1788. Alors je vous ai dit, sa théorie l'a publiée en deux temps. En 1749, la faculté de théologie le rappelle à l'ordre et puis lui accepte les critiques, enfin bon, de manière un peu hypocrite, mais bon, ça valait peut-être la peine. En 1778, c'est-à-dire 30 ans plus tard, il redit exactement la même chose, et là, la faculté de théologie renonce à lui faire remarquer, disant que, bon, Buffon, c'est un vieillard cacochime qui gâtouille un peu, on ne va pas l'agacer. En réalité, la faculté de théologie de la Sorbonne considère qu'elle a probablement perdu la partie sur ce combat précis de l'âge de la Terre. Hein, on est là en 1778. Autre auteur qui intervient dans cette prise de conscience d'une dimension non fixiste ou non créationniste, alors là, c'est un auteur qu'il faut manipuler, si je puis dire, avec beaucoup de précaution. C'est Cuvier, Georges, de son prénom. Il est né en 1769, il meurt en 1832. Cuvier, fondamentalement, est un créationniste. Cuvier, fondamentalement, est un fixiste. Seulement, Cuvier, je pense que Pascal tout à l'heure va sans doute y faire référence, il est le fondateur, il a deux titres de gloire principaux. Il est le fondateur de la paléontologie des vertébrés. On dit parfois qu'il a fondé la paléontologie. Il a fondé la paléontologie des vertébrés. Et puis, c'est Lamarck qui va créer la paléontologie des invertébrés. Donc, il fonde la paléontologie des vertébrés. Et il est le fondateur de l'anatomie comparée. Et lorsqu'on combine ces deux aspects de son œuvre, eh bien, on comprend pourquoi Cuvier a dû notamment sa grande gloire, sa grande notoriété, au fait qu'il ait reconstitué, à partir de quelques fragments, un certain nombre de quadrupèdes, comme il les appelle, fossiles, à partir d'une griffe, à partir d'une dent, à partir de lois de l'anatomie comparée qu'il est le premier à formuler. Il donne vie à des créatures type paléothérium, mégathérium, type aussi ptérodactyle. Il redonne vie à des créatures fossiles qui ont disparu. Et voilà le premier élément essentiel dans la prise en compte d'une dimension, peut-être ou pas, ça va dépendre, non fixiste. C'est-à-dire que Cuvier défend une idée qui, jusqu'alors, il était impossible de défendre. Buffon l'avait fait aussi, mais évidemment Cuvier le fait de manière beaucoup plus publique et spectaculaire et argumentée. Cuvier se retrouve finalement en contradiction avec lui-même, lui profondément croyant. Dieu, la Bible, aucune espèce nouvelle n'apparaît, aucune espèce n'a disparu. Et pourtant, ces travaux de paléontologues et d'anatomistes ont pour conséquence de redonner vie, entre guillemets, à des créatures imposantes, des quadrupèdes, qui n'existent plus aujourd'hui. Cuvier parle d'espèces perdues. C'est un constat, c'est-à-dire personne ne peut évidemment contester le fait que ces gros animaux n'existent plus aujourd'hui. Alors il va imaginer, évidemment, il va falloir qu'il trouve matière à concilier ses convictions religieuses et son savoir scientifique, il va imaginer que si on ne les retrouve plus sur Terre, c'est que ces gros quadrupèdes ont été périodiquement annihilés par des catastrophes planétaires. Par des catastrophes planétaires qui ont affecté l'ensemble de notre globe. Des catastrophes planétaires, c'est quoi? C'est un tremblement de terre qui éradique, annihile 100% de la faune et de la flore, c'est des raz-de-marée, c'est le volcanisme, etc. De grosses catastrophes naturelle, brutale, complète, et qui explique que ces grosses espèces n'aient pas survécu et qu'on n'en conserve la trace que sous la forme fossile. Est-ce que ça, c'est intéressant pour lui profondément croyant ? Oui, parce qu'au fond, le déluge est une de ces catastrophes planétaires dont la mémoire universelle a conservé l'idée. Et l'idée de Cuvier, c'est qu'au fond, le déluge biblique est l'une des dernières catastrophes dont on est conservé la mémoire. Mais ça veut dire qu'entre la création du monde il y a 6000 ans et puis le déluge, on peut, pourquoi pas, y positionner un certain nombre d'autres catastrophes. Oui, sauf que si ces catastrophes sont totales, il a bien fallu que la vie renaisse au lendemain de ces catastrophes. Dieu aurait-il bégayé dans sa création ? C'est une des questions que se posent Cuvier et ses contemporains. Personne ne peut contester que ces espèces ont disparu, mais personne ne peut contester aussi qu'au lendemain de ces catastrophes planétaires postulées, la vie est de nouveau réapparue. Et Cuvier, évidemment, là est un peu embarrassé, et va donc progressivement substituer à son catastrophisme absolu, total, un catastrophisme plus localisé, moins généralisé, en imaginant que certaines parties du continent terrestre ont pu être épargnées par ces catastrophes, et que c'est à partir de ces régions épargnées que les espèces qui y ont survécu ont pu de nouveau coloniser les parties qui avaient été dévastées. Voilà une première position qui est défendue par Cuvier. Donc, à l'arrivée, au fond, il est toujours créationniste. Au fond, il est toujours fixiste. Mais voyez qu'il apporte des éléments essentiels, qui est la prise en compte des fossiles dans une réflexion sur l'histoire de la Terre et surtout sur l'histoire de du développement de la vie sur Terre. À la même époque, alors Cuvier, à partir de 1800-1802, devient professeur d'anatomie comparée au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. À la même époque, et ça devait être rock'n'roll pour les étudiants qui les avaient, un autre auteur, Jean-Baptiste Lamarck, y enseigne. Alors Jean-Baptiste Lamarck, il est né en 1744, il est mort en 1829, et Jean-Baptiste Lamarck était au départ un botaniste de talent, auteur d'une flore française qui a connu un grand succès. N'empêche qu'il devient titulaire au Muséum de Paris d'une chaire sans rapport du tout avec ses compétences. Il va devoir enseigner la zoologie des insectes, des vers et des animaux microscopiques. Autant dire la zoologie de tout ce dont personne ne voulait, et surtout pas Cuvier, à la même époque, qui a préféré naturellement étudier les gros animaux bien spectaculaires. Et Lamarck donc va être confronté à l'étude de dizaines de milliers d'espèces d'invertébrés, presque les 9 dixièmes du règne animal. Et à partir de là, eh bien, Lamarck va avoir deux titres de gloire, au moins, même un troisième encore plus important. Il va fonder la paléontologie des invertébrés. Il va fonder la systématique des invertébrés. Et puis, à partir de ces deux tâches importantes, eh bien, il va forger une théorie tout à fait neuve, tout à fait novatrice, mais qui prend en compte, si vous voulez, les travaux à la fois de ses prédécesseurs, mais surtout de ses contemporains. Lamarck dit les catastrophes planétaires postulées par Cuvier, qui introduisent nécessairement des ruptures, des discontinuités dans l'histoire de la vie sur Terre, ces catastrophes n'existent pas. Elles n'existent pas parce que moi, quand j'étudie les invertébrés vivants actuellement et que je les mets en parallèle avec les fossiles d'invertébrés conservés dans les couches du sol, je vois quoi ? Bah, je vois que les invertébrés vivants aujourd'hui, au fond, sont des espèces analogues à celles qui sont conservées sous forme fossile. Et vous avez là déjà deux aspects importants. Cuvier, les fossiles, pour lui, correspondent à des espèces perdues. Pour Jean-Baptiste Lamarck, à exactement la même époque, les fossiles correspondent à des espèces analogues aux espèces qui vivent aujourd'hui. Et il dit, au fond, s'il y a des grandes catastrophes qui ont tué et exterminé toutes les grosses bestioles, on ne voit pas pourquoi les plus petites auraient été épargnées. Et moi, je ne vois aucune de ces ruptures, de ces discontinuités dans l'histoire de la vie sur Terre. Mais là où Lamarck a sans doute, peut-être rétrospectivement, ce petit trait de génie qu'il distingue, c'est que, d'accord, les espèces d'invertébrés qui vivent aujourd'hui sont analogues, mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Elles ne sont pas tout à fait identiques, il veut bien l'admettre. Alors il étudie des mollusques gastéropodes, des turritelles, des cérites, etc. Elles ne sont pas tout à fait identiques. Et là, à nouveau, plusieurs choix possibles. Cuvier, on l'a dit, profondément croyant, admet finalement sans trop de difficulté que ces ptérodactyles, ces mégathériums, ces mastodontes, etc. correspondent à des espèces perdues. C'est étrange d'une certaine manière, en étant profondément croyant, d'admettre aussi facilement, même si on est autour de 1800, d'admettre aussi facilement que des espèces aient pu disparaître. Lamarck est aussi profondément croyant. Et lui, il rechigne à admettre que des espèces d'invertébrés fossiles aient pu finalement disparaître, aient pu être perdues, comme le dit Cuvier. D'une part, il ne voit pas de discontinuité, mais d'un point de vue philosophique conceptuel, ça l'embarrasse d'échafauder une hypothèse qui pourrait rendre compte de la disparition pure et simple de ces invertébrés fossiles. Alors c'est là où il va se distinguer de Cuvier, et plutôt que d'admettre que ces invertébrés fossiles ont purement et simplement disparu, comme Cuvier l'admet pour les grosses bêtes, les quadrupèdes, Lamarck va préférer penser que si on ne retrouve pas ces invertébrés qui sont conservés sous forme fossile dans les formes qui vivent aujourd'hui, c'est parce que ces invertébrés qui vivaient autrefois se sont progressivement transformés au cours du temps pour prendre les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que là où Cuvier postule des discontinuités brutales qui rendent compte de la disparition de ces gros fossiles, Lamarck, lui, au contraire, parce que profondément croyant, ça l'embarrasse d'imaginer que des espèces, alors dans son cas, ce n'est pas créé par Dieu, mais enfin quand même, il n'a pas trop envie d'aller sur cette terre-là, il préfère penser qu'il y a au contraire une continuité entre ces espèces d'invertébrés fossiles et ces espèces vivant actuellement. Et du coup, il pense que ces espèces se sont donc transformées au cours du temps. Cette transformation s'est faite comment ? Sous l'influence, dit-il, des circonstances dans lesquelles se sont rencontrées ces différentes espèces. Et ces circonstances dans lesquelles ont vécu ces espèces, alors en l'occurrence d'invertébrés, mais comme c'est grosso modo à l'époque les 9 dixièmes, et toujours les 9 dixièmes du règne animal, ce qui est vrai des turritelles et des cérites, dans l'esprit de Lamarck, est vrai pour l'ensemble du règne animal, sous l'influence de ces circonstances, eh bien, ces circonstances ont déterminé chez ces espèces animales un certain nombre de variations fortuites. Tiens, ça nous rappelle un peu Maupertuis de tout à l'heure. Et ces variations fortuites, notamment en fonction aussi de l'usage et de l'absence d'usage de tel ou tel organe, se sont transmises à la descendance. Et c'est ainsi que, progressivement, les espèces se sont transformées au cours du temps. Lamarck, d'ailleurs, pense que les premières formes de vie qui sont apparues sur Terre sont le fruit d'une génération spontanée, que ce sont les premières formes de vie les plus simples qui ont apparu en premier, type infusoire, type polype, et qu'au cours du temps, ces formes de vie les plus simples, nées par génération spontanée, là encore, hein, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, il n'y a pas 50 possibilités. Ou bien c'est une création divine, mais vous êtes après bloqué par le fait que le monde est fixe et qu'il n'a que 6000 ans, ou bien si ce n'est pas Dieu, c'est la génération spontanée. Jusqu'à la deuxième moitié du 19e, et je suis gentil pour ne froisser personne, mais à mon avis, si vous regardez dans la biologie soviétique des années 1920 à 1925, par exemple, oparine, évidemment, rétrospectivement, enfin, on peut le comprendre, il n'a nullement envie d'expliquer l'apparition de la vie sur Terre par un acte divin. Du coup, il propose des mécanismes d'explication qui sont, d'une certaine manière, de rendre un peu scientifique la théorie de la génération spontanée. Donc, il n'y a pas 50 possibilités. Pour Lamarck, il adopte la génération spontanée, et ces formes de vie très simples vont ensuite, au cours du temps, se complexifier de plus en plus, et en dernier lieu, donner naissance à l'homme. Alors, j'ai quelques images tout de même, parce que je m'aperçois que vous avez le son pour l'instant, mais que vous n'avez guère l'image. Par exemple, sur Cuvier, un petit exemple. Oups, de texte. Bon. C'est le deuxième texte qu'on va lire. Puis après, il dit, si les intestins d'un animal sont organisés de manière à ne digérer que de la chair et de la chair récente, il faut aussi que ses mâchoires soient construites pour dévorer une proie, ses griffes pour la saisir et la déchirer, ses dents pour en découper et en diviser la chair, le système entier de ses organes du mouvement pour la poursuivre et pour l'atteindre, ses organes d'essence pour l'apercevoir de loin. Il faut même que la nature ait placé dans son cerveau l'instinct nécessaire pour savoir se cacher et tendre des pièges à ses victimes. Telles seront les conditions générales du régime carnivore. Tout animal disposé pour ce régime les réunit infailliblement, car son espèce n'aurait pu subsister sans elle. Et c'est fort de ce principe qu'il va appeler le principe de la corrélation des formes que Cuvier, donc qui sont tout à fait fondamentaux, que Cuvier va redonner vie, si l'on peut dire, à ces quadrupèdes fossiles. Vous voyez, ce texte ici date de 1812, mais qu'il va connaître par la suite un immense succès. Les thèses de Cuvier, catastrophiste, connaissent un grand succès, juste pour... Une, illustrer le propos. Balzac, un texte célèbre, « Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans borne du passé comme soutenu par la main d'un enchanteur? En découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, et vous voyez l'adjectif au sens fort étymologique d'avant le déluge, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années. » Alors ça, c'est Balzac qui parle. Hein. Cuvier ne mettrait pas des milliards d'années, mais bon, un écrivain peut se permettre toutes les licences possibles. « Des millions de peuples que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oublié, et dont la cendre entassée à la surface de notre globe y forme les deux pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle ? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des os blanchis, a rebâti des cités avec des dents, a repeuplé mille forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Hein, vous voyez que Cuvier, sa théorie catastrophiste qui va évidemment être critiquée, contestée fortement et d'une manière assez convaincante par Lamarck, en réalité pour les contemporains de Cuvier, c'est vraiment la théorie qui doit l'emporter. Elle rentre aussi en phase avec le romantisme de l'époque. Hein, je ne rentre pas dans les détails, mais disons qu'au bilan, c'est plutôt Cuvier hein, qui connaît le succès. Quant à Lamarck, Lamarck, eh bien, lui, il nous explique dans un autre point de vue que, on l'a dit tout à l'heure, sous l'influence des circonstances, les animaux développent un certain nombre de particularités qu'ils transmettent ensuite à leur descendance. Et vous avez ici ce petit texte bien connu de Lamarck, qui date ici de 1802, 7 ans avant la publication de son ouvrage important. « Ce ne sont pas les organes, nous dit Lamarck, c'est-à-dire la nature et la forme des parties du corps d'un animal qui ont donné lieu à ses habitudes et à ses facultés particulières, mais ce sont au contraire ses habitudes, sa manière de vivre et les circonstances dans lesquelles se sont rencontrés les individus dont il provient, qui ont avec le temps, vous voyez toujours cette expression, alors évidemment chez Lamarck par excellence, hein, qui ont constitué la forme de son corps, le nombre et l'état de ses organes, enfin les facultés dont il jouit. Exemple célèbre, celui des canards. L'oiseau que le besoin attire sur l'eau pour y trouver la proie qui le fait vivre écarte les doigts de ses pieds lorsqu'il veut frapper l'eau et se mouvoir à sa surface. La peau qui unit ses doigts à leur base contracte par ses écartements, orthographe de l'époque, sans cesse répéter des doigts l'habitude de s'étendre. Ainsi, avec le temps, les larges membranes qui unissent les doigts des canards, des oies, se sont formées telles que nous le voyons. L'exemple de la girafe n'est quasiment pas pris par Lamarck. Ça aussi, j'en profite, puisque évidemment, vous la trouvez abondamment illustrée dans tous les manuels. L'exemple de la girafe, ni chez Lamarck, ni chez Darwin, n'est pris. Il y aurait là matière à un mémoire de master pour savoir comment a progressivement émergé, comment la girafe a finalement éliminé tous les autres animaux autour d'elle. Mais en fait, si vous voulez préciser la chose, vous pouvez aller sur le blog de Lamarck, qui vous répondra si vous lui posez des questions, www.lamarck.cnrs.fr, où l'ensemble des œuvres de Lamarck sont numérisées, pas seulement les œuvres publiées, mais aussi un certain nombre d'écrits inédits, de correspondances. Et vous avez un moteur de recherche qui, d'ailleurs, vous donne l'exemple du mot girafe, au hasard. Girafe avec deux F, attention, orthographe de l'époque. Et vous verrez dedans que vous avez 3 ou 4 occurrences misérables du mot girafe dans l'ensemble de l'œuvre de Lamarck pour nous expliquer pourquoi les pattes de devant sont plus hautes que les pattes de derrière, mais pas, quasiment pas du tout en référence pour appuyer, on va dire, sa théorie du transformisme. Un point important, un point important sur lequel incite Lamarck, c'est sur la durée de temps nécessaire à cette transformation des espèces. Vous avez compris, tout est là, finalement. Il faut absolument convaincre les esprits des contemporains qu'il faut sortir d'une chronologie étroite, encore défendue par Cuvier, qui est de l'ordre de 6000 ans. Lamarck veut convaincre ses contemporains que les espèces se transforment au cours du temps, mais ce temps est un long temps. Et ça, c'est une idée qu'il aura vraiment beaucoup de difficultés à faire passer, en particulier auprès de Cuvier. Imaginez donc les étudiants qui, au muséum, sortent d'un cours de Lamarck pour aller chez Cuvier ou inversement, alors qu'on leur tient des discours complètement différents à partir des mêmes sujets. Alors Cuvier ne parvient pas à se laisser convaincre de la nécessité de prendre en compte une longue période de temps. Lorsqu'il, au lendemain de l'expédition d'Égypte, lorsqu'on ramène en France des momies d'un certain nombre d'animaux, et en particulier le célèbre ibis égyptien, Cuvier en fait l'autopsie, le dissèque, et il constate quoi, de son point de vue? Il constate que ces ibis momifiés, qui remontent à plusieurs, enfin à quelques milliers d'années en arrière, au fond, présentent une morphologie, une anatomie strictement identique à celle des ibis qui barbotent aujourd'hui sur les bords du Nil. Et Cuvier dit, franchement, vous voyez bien que ces espèces restent fixes, identiques à elles-mêmes sur des milliers d'années. Pourquoi ce qui est vrai sur quelques milliers d'années ne le serait pas sur, si on veut suivre la marque, sur des millions d'années? Donc Cuvier reste farouchement accroché à cette idée que les espèces sont absolument fixes. Une petite illustration de leur combat à l'un et à l'autre sur ces questions. Voilà pour Cuvier un texte de 1812. Il dit « Il y a dans les animaux des caractères qui résistent à toutes les influences, soit naturelles, soit humaines, et rien n'annonce que le temps ait à leur égard plus d'effet que le climat. » Là, c'est vraiment une attaque directe par rapport à l'œuvre de Lamarck. « Je sais que quelques naturalistes, suivez mon regard, il n'y en a pas quelques, enfin il y en a un principalement, comptent beaucoup sur les milliers de siècles qu'ils accumulent d'un trait de plume, mais dans de semblables matières, nous ne pouvons guère juger de ce qu'un long temps produirait qu'en multipliant par la pensée ce que produit un temps moindre. Comme l'ibis n'a pas changé en quelques milliers d'années du tout d'anatomie, de morphologie, on ne voit pas pourquoi il changerait sur des millions d'années, à supposer, ce qui n'est pas le cas de Cuvier, mais enfin, à supposer que l'on admette que le temps doive s'envisager sur des milliers d'années. Et Lamarck, eh bien, répond à cette question, enfin répond sur ce point, à peu près dans les mêmes termes, c'est juste les deux premières lignes. Oh, quelle est grande l'antiquité du globe terrestre, et combien sont petites les idées de ceux, là encore, suivez mon regard, qui attribuent à l'existence de ce globe une durée de 6000 et quelques cents ans depuis son origine jusqu'à nos jours. Vous voyez, deux points de vue absolument irréconciliables entre les deux, et c'est la raison pour laquelle on peut évoquer légitimement Cuvier dans une histoire des idées sur l'évolution, non pas qu'il fasse partie des auteurs transformiste ou pré-évolutionniste, comme vous voulez, mais parce que la force avec laquelle il affirme, d'une part, son catastrophisme, et d'autre part, finalement, son fixisme, et où il répond point par point aux arguments avancés par Lamarck, eh bien, détermine Lamarck à creuser la question, à approfondir le sujet. Et puis, vous voyez que se livre une bataille qui peut se résumer, d'ailleurs, par une jolie expression poétique par laquelle, non pas Lamarck, mais un certain nombre de ses contemporains rendent compte de cette impossibilité qu'a un naturaliste aujourd'hui pour prendre conscience de la dimension temporelle de ces phénomènes. C'est de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir de jardinier. C'est-à-dire, évidemment, si vous jugez de l'histoire de la vie sur Terre à l'aune de votre vie de naturaliste, ça c'est clair que si vous rangez une girafe dans un tiroir, quand vous venez de naître, quand vous serez à la retraite ou tout vieux, il y aura toujours une girafe dans votre tiroir, ça c'est sûr. Mais si vous envisagez la vie sur de très longues périodes de temps, alors là, tout est possible. Lamarck publie sa théorie dans un ouvrage en 1809 qui s'appelle « La philosophie zoologique ». En 1809, naît Charles Darwin en Angleterre, dont on va vous parler toute la journée. Je vous remercie.
Merci Pascal. C'est toi qui présente.
Oui, merci. Non, mais c'est bon. Peut-être s'il y a une question, sinon je passe la parole tout de suite à Pascal Tassi.
J'arrive. Attendez, monsieur, c'est enregistré. Il faut le temps que j'arrive, excusez-moi.
Oui, Pascal, juste une petite question. Il me semble que, contemporain de Lamarck et de Cuvier, il y avait le grand-père de Darwin, Erasmus Darwin. Quel rôle tu lui attribues dans cette histoire des idées?
Oui, c'est-à-dire comme je m'arrête pile à la date de naissance de Darwin, du coup, je n'ai pas évoqué Pépé, mais Erasme Darwin était un grand connaisseur des œuvres de son temps, botaniste notamment aussi, qui a fait connaître les idées de Linné. Donc, vous savez, traditionnellement, lorsqu'on parle de la théorie de Darwin, on pense que Darwin n'avait pas une connaissance particulière des idées de Lamarck. Enfin, en tout cas, lorsqu'on lit les biographies anglo-saxonnes de Darwin, il y est fait une place à Lamarck assez restreinte. Moi, je pense que Erasme Darwin a sans doute un peu bercé les premières années de formation de son petit-fils. Et je pense que Erasme Darwin, je pense qu'il était déjà un peu sur cette longueur d'onde-là. Je pense qu'il faut le prendre en compte dans la formation de Darwin. Bon, les intervenants qui vont succéder vont pouvoir répondre précisément, mais je crois qu'il faut, oui, considérer qu'il a quand même vraiment préparé le terrain intellectuel de Darwin. Je vais passer, puisqu'après on aura l'occasion de faire une discussion globale, je passe la parole à Pascal Tassi pour le thème évolution et paléontologie.
Merci. Alors je remercie les organisateurs de cette journée de me donner l'occasion de parler de paléontologie à Poitiers. Ça marche pas ?
Donc pendant ce temps-là, je vais présenter Monsieur Tassi. Pendant qu'on est dans les petites mises au point techniques. D'abord, je m'excuse de ne pas avoir présenté Pascal plus amplement, mais bon, il est très, très modeste. Bon, voilà. Donc je remercie encore Pascal Duris et puis aussi nos intervenants. Donc Monsieur Tassi, vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle et vous avez enseigné pendant 21 ans la paléontologie de l'évolution à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Et vous avez rejoint le muséum en 1996. En paléontologie, votre spécialité concerne l'évolution des proboscidiens, éléphants et groupes apparentés, ce qui vous a amené à faire des fouilles paléontologiques dans différents coins du monde, en France, mais aussi Pakistan, Bulgarie, Grèce, Israël, Algérie, Kenya. Vous vous intéressez aux proboscidiens, c'est aussi s'intéresser aux mammifères en général, ainsi qu'aux moyens de retracer l'histoire de l'évolution. C'est pourquoi, dès les années 70, vous êtes impliqué dans la révolution cladistique. Et dans les méthodes de reconstruction d'arbres phylogéniques, vous avez été l'un des commissaires scientifiques de l'exposition au temps du mammouth, au temps des mammouths créés au muséum en 2004. On vous écoute, Monsieur Tassi. Merci infiniment.
Merci. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à parler de paléontologie. Donc là, je vais vous montrer pas mal d'images, hein, pas mal de fossiles, y compris des proboscidiens, vers la fin. Alors, dans un premier temps, la question qui se pose, c'est d'interpréter les objets fossiles comme des fossiles. Et c'est-à-dire comme des faits. Alors le problème, c'est que le fait brut, on pourrait en discuter longtemps, et le fossile ne devient intéressant que s'il est chargé d'hypothèses scientifiques. On a trouvé des objets bizarres dans la Terre depuis très longtemps. Évidemment, dans un premier temps, lorsque ces objets ressemblaient à des restes d'animaux vivants, eh bien, on les comparait à ces animaux et il était tentant d'en faire les témoins du déluge. Alors, sur l'image de gauche, vous voyez quelques fossiles en bas et aussi l'illustration de la division du travail. Et puis, sur l'image de droite, vous avez ce qu'on appelle une ammonite et qui est comparée au nautile. Donc, une planche célèbre de Robert Hooke qui est d'ailleurs publiée après sa mort. Donc ce n'est pas parce qu'on trouve des fossiles qu'immédiatement on peut asseoir une hypothèse d'évolution, même si cela va se révéler possible. Pour passer à un stade supplémentaire dans la compréhension des fossiles, il faut avoir une pensée un peu conceptuelle, c'est-à-dire identifier ces objets comme faisant partie d'organismes vivants qui sont de même nature que les organismes actuels, d'où le concept de taxon qui viendra très très tard et qui est d'abord conçu au travers de ce qui nous paraît le plus immédiat, c'est-à-dire l'espèce. La notion d'espèce éteinte, d'espèce perdue comme on dit en France, elle est exprimée de façon claire pour la première fois dans un ouvrage scientifique par Buffon, le fameux Buffon, dans ses époques de la nature de 1778, comme Pascal Duris vous l'a évoqué tout à l'heure, avec cette phrase, je crois donc pouvoir prononcer avec fondement que cette très grande espèce d'animal est perdue. Là, il le dit très clairement, on va voir à quoi il fait allusion. Quelques années plus tard, on déclare une espèce de calamite du houillet, du Carbonifère comme étant une espèce perdue de prêle, autrement dit, du monde animal au monde végétal. En quelques années, on admet que ces restes organiques ont le même statut que les organismes vivants. Alors, le grand animal qui perturbe beaucoup Buffon, ben, voici sa première illustration publiée en 1756 à droite, et puis l'objet hein, qui est dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, Guettard, qui était un naturaliste étant poids, se demandait à quel animal pouvait bien appartenir cette dent qui ne correspond à rien de connu dans la nature actuelle. Et cela a amené Buffon, donc, un peu plus tard, à reconnaître que là, on a une espèce perdue, c'est-à-dire mettre en évidence le concept d'extinction. Voilà une planche publiée par Buffon lui-même dans une réédition ultérieure. Donc, ces grosses dents, ce sont en fait qui fascinaient Buffon, ce sont des dents qui seront appelées bien plus tard par Cuvier des dents de mastodonte. Alors, justement, maintenant, nous admettons que les fossiles sont des restes organiques, qu'ils appartiennent à des êtres vivants que l'on peut concevoir comme appartenant, eux aussi, à des espèces, et des espèces qui sont éteintes. Donc, il va falloir maintenant expliquer la superposition des couches qui contiennent ces fossiles. Alors, Cuvier et son successeur dans la chaire d'anatomie comparée du muséum, Blainville, sont deux paléontologues fixistes. Blainville a inventé le mot paléontologie en 1822 pour qualifier cette science. Et le discours sur la révolution de la surface du globe de Cuvier de 1825, c'est en fait une réédition un peu plus élaborée de son discours d'introduction sur les recherches sur les ossements fossiles, dont Pascal Duris vous a montré quelques citations. Moi, je vous en montrerai une aussi, presque la même, mais pas tout à fait, pour illustrer qu'on peut admettre qu'il a existé des espèces éteintes sans pour autant être évolutionniste. Alors, Cuvier réussit à reconstituer les êtres du passé, chanté avec beaucoup de lyrisme par Balzac, grâce à son principe de la corrélation des formes, dont on a ici une explication quasiment théorique, et ça lui permet de faire des prodiges de reconstitution paléoanatomique. Et quand il dit « celui qui posséderait rationnellement les lois de l'économie organique pourrait refaire tout l'animal », il parle de lui, et lui refait tout l'animal à partir de restes fragmentaires. Donc la légende qui fait dire à Cuvier avec un os « je vous fabrique un squelette », elle est vraie. Il n'a pas dit ça comme ça, bien sûr, mais il l'a dit. Voilà, par exemple, un dessin du paléothérium de Cuvier lui-même, un dessin de travail. Cuvier n'a jamais observé de squelette articulé d'un paléothérium dans les couches de gypse du bassin de Montmartre. Et lorsque, après sa mort, à Ivry, dans des couches contemporaines dans le sud de Paris, de la région parisienne, on a découvert un paléothérium, Vitry, pardon, merci Guillaume. C'est tout à côté, mais ce n'est pas le même endroit. Donc à Vitry, on découvre un squelette articulé de paléothérium, on s'aperçoit que ce squelette correspond de façon très étroite à la reconstitution qu'en avait fait Cuvier. Donc la démonstration de l'efficacité du principe de corrélation des formes ou des organes de Georges Cuvier. Mais ce n'est pas pour autant que le paléothérium est conçu par Cuvier dans un contexte d'évolution, c'est-à-dire de filiation entre les espèces. Au contraire, Cuvier, en reconstituant le paléothérium, d'autres espèces, le mégathérium, montrent bien qu'il n'y a pas d'équivalent étroit dans la nature actuelle. Et donc, a contrario, cela lui permet justement de nier les idées évolutionnistes contemporaines. Alors, Lamarck, avec ses analogues dont il a été question, lui au contraire, appuie l'idée d'une filiation entre les espèces. Et donc, on trouve des espèces qui sont des analogues à l'état fossile des espèces actuelles. Geoffroy Saint-Hilaire, qui s'entendait bien avec Lamarck, qui s'entendait très bien avec Cuvier, d'ailleurs c'est lui qui a fait venir Cuvier au muséum, ils ont travaillé ensemble au début, c'est Geoffroy Saint-Hilaire qui a mis Cuvier sur, j'ose dire, sur les éléphants, lui faisant travailler sur les éléphants. À l'époque, on ne savait pas combien il y avait d'espèces d'éléphants sur Terre. C'est Cuvier qui en a montré qu'il y en avait deux avec Geoffroy. Et puis après, ils se sont fâchés très, très vite parce que la vision de Geoffroy de la vie était une vision très opposée à celle de Cuvier, beaucoup plus proche de celle de Lamarck. Et en 1807, c'est assez tôt, il publie quasiment un programme de recherche paléontologique évolutive. Hein, pour un naturaliste de contemporain, il faut montrer comme les espèces actuelles pourraient appartenir par une sorte de filiation à celle des premiers habitants de la Terre dont la connaissance nous est transmise par leurs débris à l'état fossile. Et un peu plus tard, il dit très clairement que les animaux vivants aujourd'hui proviennent des animaux du monde antédiluvien. Donc il y a une base évolutionniste qui est contemporaine des idées de Cuvier, mais c'est effectivement Cuvier qui est le plus grand descripteur d'espèces fossiles qui impose ses vues catastrophistes à la majorité des chercheurs des cercles académiques de l'époque. Plus encore, les géologues, les stratigraphes sont tout autant fixistes. On peut dire que l'équation stratigraphie plus évolution égale phylogénie est très tentante, elle est très facile à concevoir aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'est absolument pas évident. La stratigraphie est... les ébauches modernes de la stratigraphie sont dues à des géologues, cartographes anglais comme Smith, et puis Alcide d'Orbigny, stratigraphe français. D'Orbigny, alors vous avez ici un marque-page publié par la Société géologique de France qui vous montre la succession des couches géologiques avec leurs couleurs standardisées qu'on trouve sur les cartes géologiques. Ben, cette échelle du temps géologique, elle est héritée d'Alcide d'Orbigny qui publie en 1849 sa succession des étages, 28 étages, mais qui sont autant de faune et de création pour D'Orbigny. D'Orbigny est cuvierien ou cuvieriste, comme vous voudrez, au sens strict. Et donc, justement, les différences de faune sont la preuve de discontinuités indiscutables, d'autant qu'elles sont souvent soutenues par des discontinuités lithologiques dans la nature des dépôts sédimentaires. Donc la stratigraphie, elle aussi, dans ses débuts, elle est fixiste. Donc il faut attendre Darwin pour que l'on puisse faire le lien entre l'histoire géologique, le temps géologique matérialisé par la colonne stratigraphique et les idées sur la variation et les enchaînements entre les espèces au cours du temps. Ce que vous voyez là, c'est la seule image qui figure dans l'origine des espèces. Elle est célébrissime. Elle est très moderne parce que c'est un schéma théorique. Il ne parle pas d'un groupe quelconque. Darwin explique l'évolution par des lettres et des chiffres. Donc on part d'espèces ancestrales, ABCD, etc. Et puis on arrive, au bout du compte, après des milliers et des milliers de générations, dit-il, à un plus grand nombre d'espèces que ce que l'on avait au départ. Alors, le coup de génie de Darwin, c'est de dire que les lignes horizontales, numérotées de 1 à 14, ce sont à la fois des générations et du temps. Des couches géologiques. Autrement dit, l'origine des espèces pour Darwin, ça équivaut à la phylogénie, même si le mot n'existe pas dans la première édition d'Origine des espèces. Il l'adoptera dans la dernière. Et donc, l'accumulation des variations, les ségrégations de comportements, car il y a de l'usage et du non-usage, il y a de l'hérédité des caractères acquis chez Darwin. Donc il ne faut pas opposer, comme on le fait trop souvent, Lamarck et Darwin. Il faut plutôt les voir comme des étapes dans une conception de plus en plus moderne et actuelle de l'évolutionnisme. Eh bien, on a des multiplications d'espèces. Et dit-il, sur la ligne 10, on pourrait avoir des variétés qui sont quasiment l'équivalent d'espèces. Et d'ailleurs, Darwin insiste pour dire qu'au fond, aucun naturaliste ne peut donner une définition satisfaisante qui permette d'opposer variété espèce. Pour Darwin, c'est quasiment la même chose. Alors, à partir de là, les paléontologues vont être tentés d'intégrer leurs travaux sur les fossiles, les espèces éteintes, dans une dimension géologique contrôlée. Le premier à le faire est Albert Gaudry, paléontologue français. 1866, vous voyez, c'est très très vite après l'origine des espèces. Surtout que Gaudry a lu Darwin en 1862, lors de la publication de la première traduction française de l'origine des espèces. En fait, Gaudry était préparé à la lecture de Darwin, dont il a fait part de son enthousiasme dans ses écrits, car il était très influencé par les idées de Lamarck et de Geoffroy Saint-Hilaire, qui étaient, il faut le souligner, minoritaires lorsque Gaudry travaille à la Sorbonne, puis au Muséum. Donc, vous avez ici une image de l'évolution des chevaux, donc dans un ouvrage de 1866. C'est pratiquement le modèle de l'arbre phylogénétique tel qu'on le présente depuis et tel qu'on peut le trouver dans les travaux du XXe siècle et qui sont des travaux qui constituent le cadre de pensée de la biologie moderne, paléontologie incluse. Donc la théorie synthétique des années 30-40, vous avez là des généticiens, des biologistes, des paléontologues. Simpson est un paléontologue. Je cite ici un ouvrage important de Julian Huxley, mais il y en a bien d'autres. Et il faut attendre pratiquement la cladistique avec Villenig, qui n'utilise pas ce terme d'ailleurs. Villenig utilise le terme de systématique phylogénétique dans les années 60 pour que la théorie synthétique renouvelle sa conception de la restitution de l'histoire de la vie, qui était donc hérité de Darwin, mais qui a été très très vite un petit peu caricaturé, y compris par Haeckel, qui est l'un des propagateurs influents de l'œuvre de Darwin. Il faut savoir que les livres de Haeckel ont été infiniment plus lus, si on en juge par le tirage, que ceux de Darwin, et pas seulement en Allemagne, mais en Angleterre et en France. Donc le schéma de droite est une présentation de l'évolution de l'homme depuis les monères, et le dessin de l'arbre, quasiment comme un vieux chêne, évoque irrésistiblement une montée vers l'homme, les hommes en l'occurrence, ce qui est, du point de vue de l'image, très différent du schéma fondateur de Darwin, qui n'a comme flèche que l'abondance des espèces de l'époque 14. Autrement dit, dès 1859, on sait très bien que l'histoire de la vie sur Terre, ce n'est pas une ligne, mais c'est un arbre, une multiplication de lignées qui, quelquefois, échappe à une lecture rapide, notamment quand on utilise la métaphore de l'arbre telle que celle utilisée par Haeckel dans cet ouvrage-là. Mais Haeckel a proposé d'autres images qui sont plus proches de celles de Darwin. Bon, là, l'ouvrage de Haeckel, Anthropogénie, a pour but de montrer l'histoire évolutive de l'homme, d'où le choix, sans doute malheureux, de cette présentation-là. Choix malheureux, mais extrêmement fécond, puisque cette image a été utilisée largement ultérieurement. Là, vous avez une image assez standard de la paléontologie du milieu du XXe siècle, où on a des groupes qui sont situés dans la dimension chronologique. Ici, l'ère primaire terminale, l'ère secondaire, avec le groupe 3 des archosaures, c'est-à-dire les dinosaures, et puis le cénozoïque, c'est-à-dire l'ère tertiaire. Et puis, vous avez des relations d'ancêtres descendants entre des groupes éteints et des groupes actuels. Donc, on ne sait pas trop où se situe l'extinction, puisqu'il y a des lignées directes entre, par exemple, à droite, les cynodontes et les mammifères. Ce type de représentation est le plus fréquent au milieu du XXe siècle et jusqu'à plus tard. Ce type de représentation apparemment oublie, en tout cas ne nous aide pas à bien comprendre, le phénomène de l'évolution tel que l'envisageait Darwin, l'origine des espèces, c'est-à-dire des mécanismes qui se situent au niveau des organismes qui se reproduisent et dont les descendants sont fertiles, les espèces. Donc il faudra intégrer le fossile dans une dimension beaucoup plus modeste pour essayer de saisir si le fossile peut servir à comprendre le mécanisme de spéciation dans la dimension chronologique. Le problème, c'est que les paléontologues, au cours du XXe siècle, ont très longtemps valorisé une vision de l'évolution de la forme. Avec l'image de gauche, vous avez l'échelle du temps, l'échelle de la morphologie, alors le temps à gauche, la morphologie qui est appelée ici structure, les fréquences à la verticale. On a ici une traduction biométrique d'une forme à des mensurations ou des indices, avec des extrêmes et puis une moyenne. Et on s'aperçoit que dans la variation d'une population, eh bien, au cours du temps, la moyenne des vies, ça peut être un agrandissement de taille, de telle sorte qu'au bout d'un moment, eh bien, le domaine de distribution de nos mensurations échappe totalement au domaine initial. Et l'évolution se fait comme ça, c'est ce que l'on appelle le gradualisme phylétique. Et alors un exemple de droite d'évolution des oursins au cours du Jurassique avec des petites variations prises d'ailleurs quelquefois assez peu de variations au fond avec donc des transformations régulières au cours du temps. Gradualisme phylétique. Gould et Eldredge, dans un ouvrage de 72, vont proposer une autre vision qui est en réalité une façon d'intégrer les idées des néo-darwiniens qui travaillent sur l'actuel, Ernst Mayr, on va y venir, dans la dimension paléontologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette présentation, les équilibres ponctués, tout le monde a entendu cette expression-là, a été présentée souvent comme une nouvelle théorie de l'évolution, un challenge vis-à-vis du darwinisme, alors que ce n'est rien d'autre que le standard de l'évolutionnisme néo-darwinien appliqué aux fossiles. Ce sont les paléontologues qui, au cours du XXe siècle, ont privilégié un mode de transformation de la forme au cours du temps, l'ont interprété en termes de spéciation de façon abusive, et qui, eux, ont présenté leur déviation, sans faire de jeu de mots, du darwinisme comme étant le véritable darwinisme. Voilà le mode de spéciation standard, dit géographique ou allopatrique, de Mayr, c'est-à-dire vous avez tout en haut une distribution géographique d'une unité, une population. Ensuite, vous avez des événements géographiques qui, finalement, changent légèrement la distribution des membres de ces espèces, de cette espèce. Et puis, la troisième étape, c'est une dissociation à droite et à gauche de deux groupes qui ne se rencontrent plus, donc avec des échanges de gènes différents de part et d'autre de la barrière. Et au cours du temps, donc même si ce n'est pas vraiment apparent, l'échelle du temps est présente, on peut de nouveau avoir une mise en présence de ces deux populations, alors deux cas de figure, ou bien là où elles se rencontrent, elles sont toujours fertiles et donnent des hybrides, il n'y a pas eu de spéciation, ou bien là où elles se rencontrent, les animaux, lorsqu'ils sont en sympatrie ou péripatrie, pour utiliser des mots savants, eh bien, ils ne se reproduisent plus et on a la preuve que ce sont deux espèces différentes. Eh bien, ce qu'ont fait Eldredge et Gould, c'est appliquer dans la dimension du temps ce mode de spéciation. Donc, le cas d'Eldredge, ce sont les trilobites du Dévonien, c'est-à-dire de l'ère primaire, à l'époque où la Pangée fait que la Terre n'a pas tout à fait l'allure qu'elle a aujourd'hui, où vous avez les terres émergées en gris, et puis les mers épicontinentales en blanc, et puis il y a un immense Pacifique. Eldredge s'intéresse aux trilobites avec un tout petit caractère de rien du tout, c'est-à-dire le nombre de lignes d'ocelles sur les yeux des trilobites qui sont ici des yeux composés. Donc c'est un caractère de microévolution, c'est un caractère qui correspond à des variations entre populations d'espèces actuelles, et il s'aperçoit que, contrairement à ce qu'il pensait, il n'a pas une évolution du nombre de lignes d'ocelles régulière au cours du temps, il a des ponctuations. Alors, ce que vous avez sur cette image, qui est un peu compliquée, mais qui est devenue célèbre, d'abord, l'échelle du temps, vous avez ici une période de 8 millions d'années. Donc, sur 8 millions d'années, il s'aperçoit que Il y a des évolutions un peu différentes selon que les trilobites vivent dans la mer épicontinentale à gauche, la plus grande zone de répartition des trilobites. À droite, c'est la mer marginale qui est au pied d'une chaîne de montagne et qui est profonde, étroite. Et il s'aperçoit qu'à droite, eh bien, la succession des formes est très rapide. Alors qu'à gauche, il y a une stabilité importante. Et puis une fois que les transformations de formes se sont mises en place, il y a une grande stabilité et qui va être ponctuée beaucoup plus tard par un événement très court. Donc il n'y a pas de succession à gauche continue, mais à gauche, vous avez des immigrations de droite à gauche qui se font à deux époques. Donc, vous avez une stase évolutive, c'est-à-dire une période de calme évolutif, il se passe rien, pour dire les choses simplement, et puis des périodes courtes d'évolution, courtes à l'échelle géologique. Donc, cette hypothèse d'évolution, de spéciation dans le temps, donne une place considérable à la distribution géographique est-ouest des populations, selon les standards de la spéciation géographique. Donc, le fossile est à la fois maintenant une clé pour comprendre le rythme de l'évolution dans la spéciation et nous permet de concevoir des arbres phylogénétiques à différentes échelles de temps et de taxons. Dans un premier temps, on oublie, si on admet que l'évolution se fait au niveau des organismes interféconds, c'est-à-dire des populations et des espèces, on oublie le groupe ancestral. Par exemple, vous avez ici X, Y, Z. Ce n'est pas parce que Y n'a pas tous les caractères de Z qu'il est ancestral. Y est un groupe qui contient deux espèces qui ont acquis au nœud 5 des caractères qui n'ont rien à voir avec l'émergence du groupe Z. Donc, les arbres qui montraient des relations entre ancêtres et descendants, ce sont des métaphores, mais ce ne sont pas des images d'hypothèses de spéciation et donc d'évolution selon les vision très clairement darwinienne. Donc c'était le groupe ancestral était une simplification qui nous a fait croire que l'évolution se passait comme ça, mais ce n'était évidemment pas le cas. Donc ce que vous avez là, cet arbre très célèbre, qui a été redessiné de 36 façons différentes depuis 1950, cet arbre-là montre des genres ancestraux qui montrent bien une diversification. Il y a de l'évolution là-dedans, il y a de la différenciation. C'est pas une absurdité, cette image, hein, bien entendu. Mais ce n'est pas le résumé d'un schéma de type Darwin, origine des espèces, 1859. Et si l'on prend, par exemple, le genre du centre de cette image, le genre Merychippus, qui donc est l'ancêtre, entre guillemets, du genre Equus, on voit aussi, l'arbre étant complexe, qu'il y a quand même d'autres genres qui ont le malheur d'être tous éteints, c'est-à-dire qu'ils comprennent nombreuses espèces qui sont éteintes. Et donc, on est tenté de dire, ah oui, Merychippus donne le genre Equus. Et si l'on fait une analyse au niveau des plus petites unités possibles reconnaissables qui s'approchent plus ou moins du concept d'espèce actuel, bien on arrive à des schémas beaucoup plus complexes. Voilà le Merychippus dans le détail de ces lignées que l'on peut identifier. Et la branche qui mène au cheval, eh ben, on peut jouer, hein, les cacher dans cette image, saurez-vous la trouver ? Eh bien, c'est la branche numéro 4, dont l'espèce éteinte 5, donc en haut à gauche. C'est l'un des groupes de cette image très complexe. Autrement dit, là, on a un schéma qui est beaucoup plus proche du schéma de l'origine des espèces de Darwin. Je vous le rappelle, où Darwin cherche à expliquer l'origine des espèces, les relations de parenté au cours du temps, c'est la même problématique. Identité de problématique a été largement oubliée par la production standard d'images néo-darwiniennes au cours du XXe siècle. D'où les confusions, les débats et les procès d'intention qu'on a pu faire sur les approximations des néo-darwiniens qui ont été récupérées très souvent par justement les contempteurs des faiblesses du néo-darwinisme, notamment les créationnistes. Alors, le problème, c'est que les schémas de parenté, si on pense que l'arbre de l'évolution, c'est l'arbre, le chêne de Haeckel, avec son gros tronc et ses branches, ça ne ressemble pas beaucoup à ce schéma-là. Là, vous avez par exemple le cladogramme, c'est-à-dire un schéma de parenté des amniotes, un arbre qui peut être interprété comme un arbre phylogénétique, mais là, on a simplement un schéma de parenté qui vous montre que les oiseaux et les crocodiles ont un ancêtre commun, et si on veut montrer que ça se passe dans l'histoire, on peut injecter un fossile, le Compsognathus, sachant qu'il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines entre les deux taxons actuels. Mais ça, pour le grand public, c'est plus difficile à saisir, de moins en moins, parce que la jeune génération a vu très tôt des schémas qu'on appelle des cladogrammes comme celui-là. Pour l'ancienne génération habituée à voir des arbres avec des ventres ancestraux d'où émergent d'autres ventres, d'où émergent d'autres branches, c'est moins intuitif comme schéma. Puisqu'en plus, tout est situé au même niveau, le temps n'est qu'implicite ici, il n'est pas explicite. Donc ces schémas-là sont extrêmement clairs pour argumenter sur les parentés, mais pour le grand public, sont assez difficiles à comprendre. Je le dis parce que j'ai été de ceux qui ont proposé la vulgarisation de ces cladogrammes il y a longtemps, et je me rends compte à l'usage que ça reste un obstacle à la compréhension de l'évolution, alors qu'en fait, ça devrait être un outil idéal. Bon, pour en discuter, parce que c'est un vrai sujet. Alors, aujourd'hui, le fossile, est pratiquement, on ne peut pas l'interpréter autrement que dans un contexte évolutionniste, alors qu'au départ, il a été conçu dans un contexte totalement fixiste, hein, faut pas l'oublier. Donc, il est très facile maintenant de voir que le fossile n'a de sens que dans la dimension historique, qui est la sienne, mais vis-à-vis des espèces actuelles. Il permet d'asseoir des hypothèses ou il permet de proposer des hypothèses qui seraient impossibles à proposer uniquement avec les espèces actuelles. Deux exemples, c'est mes animaux préférés, les proboscidiens, dont on parlait au début. À gauche, les éléphants actuels. À droite, les siréniens, le groupe le plus proche des éléphants dans la nature actuelle, qui sont des animaux aquatiques. Donc, il y a un hiatus morphologique considérable entre les deux groupes. Donc, pas beaucoup d'espèces actuelles. Mais si on pense aux fossiles, à ce moment-là, le schéma est bien plus compliqué. Regardez les siréniens fossiles. Il y en a quand même un paquet. Les actuels sont représentés par des petits dessins. Alors, j'ai considéré la rhytine de Steller comme un animal actuel, en bas à droite, au-dessus du dugong. Elle a été découverte, cette rhytine, dans le Nord-Pacifique en 1741, si je ne me trompe. Et 27 ans après, elle avait été rayée de la carte des espèces vivantes parce que sa chair était excellente. Pauvre animal. Donc voilà. Bon, même si on monte le nombre des siréniens à trois genres, ça ne fait pas beaucoup par rapport à tout ce qui a pu se différencier depuis l'ancêtre commun des siréniens et des proboscidiens. Pareil pour les proboscidiens. Hein, vous avez les siréniens tout en haut, les proboscidiens actuels tout en bas, et entre les deux, une quantité de groupes qui évoluent avec des modalités différentes et qui permettent de concrétiser des caractères qui se sont différenciés au cours du temps. Autrement dit, le lien entre les actuels et les fossiles s'impose absolument. Le fossile, donc, devient un moyen de bien faire comprendre l'évolution, même si on la simplifie en mettant des petits animaux au bout, on est bien obligé d'en mettre un certain nombre à la fin, de donner une idée de la diversité, non pas hypothétisée, mais connue des animaux au cours du temps, là, depuis 50 millions d'années. Ce qui permet de dire que les premiers représentants des groupes, comme l'avait écrit Darwin en 1859, sont certainement beaucoup plus ressemblants entre eux qu'ils ne le sont de leurs descendants. Alors regardez le plus ancien proboscidien connu à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, à droite, Phosphatérium, son crâne, sa reconstitution. Son crâne n'a pas grand-chose à voir avec un crâne d'éléphant, son descendant 50 millions d'années d'évolution plus tard. En revanche, il évoque un peu plus d'ailleurs le crâne d'un parent des chevaux actuels au centre, Iracotherium cendré, qui a la taille d'un chat, comme vous le voyez, et qui, lui, ne ressemble pas beaucoup, de par ses proportions et de sa taille, au cheval actuel, qui est l'un qui sont lointains descendants. Bref, les fossiles comblent les hiatus entre les actuels. On peut multiplier les exemples. Alors ici, un exemple intéressant, l'origine des tétrapodes. Vous avez des groupes actuels qui sont très pauvres en espèces, les dipneustes, le sélacanthe, même si on dit les sélacanthes puisqu'on a trouvé une deuxième espèce en Indonésie. Si on ajoute les fossiles, à ce moment-là, on a des groupes qui ne sont pas très familiers, les pandérectidés, rhizodontidés, les ostéolipiformes, etc. Bon, ce sont des noms un peu barbares, mais tous ces groupes montrent bien qu'on a la possibilité, grâce aux fossiles, de construire des organisations, des associations de caractères qui n'existent pas à l'identique chez les formes actuelles, qui sont toutes des descendants de ces nœuds ancestraux qui donnent à la fois les espèces actuelles et les fossiles. Alors, le sélacanthe, une image, c'est un groupe, même à l'état fossile, qui n'est pas très riche, mais tout de même, vous voyez, depuis le Dévonien, hein, depuis 300 millions d'années, il y a quand même pas mal de taxons qui ont été identifiés un peu partout dans le monde, et pas simplement avec le sélacanthe des îles Comores d'aujourd'hui. La même chose pour les hominidés, c'est pas à Poitiers que je vais vous apprendre l'évolution des hominidés, hein, c'est presque le centre mondial de la paléontologie humaine maintenant. Les hominidés, eh bien, vous voyez, à partir de l'ancêtre commun des chimpanzés et de l'homme, vous avez cette multiplication d'hommes, hein, à gauche, avec leur répartition stratigraphique. Une fois encore, qu'il s'agisse d'hominidés, de sélacanthes, de tétrapodes, de proboscidiens, de siréniens, de tous les groupes que vous voulez, de la vie sur Terre, l'histoire, ce n'est pas une flèche, c'est un arbre, c'est une multiplication de lignées. Vous pouvez même dire un buisson, si vous préférez. Mais l'histoire a été parfaitement bien restituée par le schéma fondateur de Charles Darwin, 1859. Je ne veux pas faire du darwinisme parce que c'est l'année Darwin, mais c'est la réalité. On est frappé par la modernité de l'origine des espèces encore aujourd'hui. Donc, le dernier message, l'évolution, c'est un arbre. Les fossiles sont là pour compliquer encore l'arbre qui est infiniment complexe, rien qu'avec les espèces actuelles. Ce n'est pas une ligne, même si cette métaphore est encore trop souvent utilisée. Merci.
Écoutez, j'ouvre la discussion sur l'intervention de Pascal. Puis je vais mettre là aussi, moi. Voilà. Sur nos deux interventions de ce matin. Voilà. Oui, on discute, on répond aux questions. Oh, tais-toi.
Bonjour. J'ai une question pour Monsieur Duris par rapport à Benoît de Maillet dont vous nous avez parlé. Donc, vous nous dites que lui, il entre en opposition avec le savoir biblique. Par rapport à ça, vous nous montrez des images de personnages qu'il invente, plus ou moins. Je pense au cyclope et à l'unijambiste. Ça, c'est des personnages qu'on retrouve dans la vision médiévale. Donc, est-ce qu'on est vraiment en rupture totale avec justement cette vision biblique?
Alors, premier point, les gravures des trois créatures que j'ai montrées à droite, hein, je répète, ne sont pas extraites de l'ouvrage de Benoît de Maillet, elles sont précisément extraites d'ouvrages du, bon, je crois bien que c'était de la fin du XVe siècle. Alors, c'est une question intéressante qui va me permettre de dire, je vais répondre par un exemple. Typiquement, par exemple, entre la girafe et la licorne, pour les zoologistes, c'est la licorne qui existe parce qu'il en est question, par exemple, dans la Bible. Pour ce qui, voilà. Et la girafe, qui a une bizarre forme, tant qu'on ne l'a pas vue, et vous savez qu'en France, on en verra un exemplaire très concret que tardivement ou récemment, je ne sais pas comment il faut dire. Donc on préfère continuer à faire confiance à ce qui est écrit dans la Bible pour ce qui est de ces espèces fabuleuses du type de la licorne. Pour les autres créatures, là, on touche à l'espèce humaine. L'idée qui domine, c'est que l'homme a fait l'objet d'une création spéciale par Dieu et qu'il a été créé à son image. Donc les créatures qu'on voit là sont en effet des créatures médiévales, mais qui sont difficilement classables, vraiment, si je devais compléter, elles ne prennent pas place, on va dire, dans la lignée humaine. À proprement parler, ce sont des créatures monstrueuses, mais si vous voulez, on est confronté à toujours la même difficulté pour ce qui est de la zoologie. Dieu a créé pendant les semaines de la création les espèces distinctement les unes des autres, mais son pouvoir de création est tel qu'on peut imaginer qu'il a, là où on voit des discontinuités entre deux espèces, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui permettent de les distinguer, on peut aussi imaginer, tout en étant toujours très croyant, création biblique, etc., on peut imaginer que son pouvoir de création est tel qu'il a aussi créé des créatures intermédiaires. Et c'est tout à fait l'image de nos monstres marins en habit de moine ou en habit d'évêque. C'est toute la difficulté. Après, c'est un petit curseur selon les auteurs. Ou bien ils considèrent que vraiment l'homme est tout à fait distinct des autres animaux et qu'il n'y a aucune créature intermédiaire qui permettrait insensiblement d'y arriver. Ou bien, au contraire, l'homme fait partie du règne animal. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de nuances qui permettraient d'y accéder. C'est, sur cette question-là, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas y répondre de manière générale. Voilà, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis que se mêle, c'est vrai, dans le discours des zoologistes jusqu'à la fin du XVIIIe, hein, figurent dans leur traité de zoologie des créatures mythiques ou fabuleuses, dont certains n'hésitent pas à critiquer l'existence au nom de leurs convictions religieuses, mais dont d'autres n'hésitent pas à admettre l'existence au nom des mêmes convictions religieuses. Donc c'est assez compliqué, c'est de la zoologie fantastique, comme on pourrait appeler.
Je crois que vous faites beaucoup d'honneur à la Bible parce qu'il y a très peu de descriptions animalières, si l'on peut dire, dans la Bible, en fait. Je pense que peut-être voulez-vous parler plutôt de la vision de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, car en fait, il y a tout un tas d'auteurs. Je pense qu'on pourrait parler d'Aristote, d'Hérodote également, dont les écrits sont à l'origine de ces descriptions d'animaux ou d'organismes fantastiques.
Non, je fais honneur légitimement, on va dire, au récit biblique. Alors Aristote, bien entendu, aussi, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment l'idée que Dieu a créé toutes les espèces animales, végétales telles que nous les connaissons, qui est le cadre conceptuel dans lequel travaillent tous les zoologistes et botanistes. Et nous avons une littérature très abondante, qui est destiné à identifier, décrire toutes les espèces d'animaux ou de végétaux. Ça dépend si c'est un botaniste ou un zoologiste qui porte des noms, hiéro, zoo, botanicon, etc. Il y a toute une littérature très spécialisée dont la mission, presque, est vraiment de répertorier, d'identifier, de décrire toutes les espèces animales et végétales décrites dans la Bible. Il y a, je pense à Samuel Bochard, par exemple, mais à plein d'autres. Johann Jakob Scheusser, par exemple, dont Pascal Tassi vous a montré tout à l'heure une gravure, typiquement... lui aussi est l'auteur d'ouvrages dont la vocation est vraiment de répertorier les animaux dont il est question dans la Bible. Lorsque, pour l'épisode de l'Arche de Noé, typiquement l'affaire de la licorne, c'est parce que Noé lui a refusé l'accès dans l'Arche. On n'imagine pas évidemment une pointe qui pourrait perforer. Enfin bon. Mais par contre, il a accepté les éléphants. Donc ça a vraiment un sens quand même. Hein. Je crois que on peut penser que je surinterprète, mais il y a vraiment une littérature biblique, une littérature zoologique et botanique biblique. Mais naturellement Aristote et tous les autres, Pline, etc. Bien entendu.
Voilà. Non, je suis d'accord sur le fond avec ce que vous dites. Simplement, je pense que l'existence même de cette littérature d'interprétation montre bien que si vous prenez la Bible elle-même, elle demande interprétation. Il y a très très peu de descriptions à proprement parler, c'est ce que je voulais dire.
C'est vrai, n'empêche que tous ces auteurs, et alors c'est valable pareil pour la chronologie, hein, quand on a dit tout à l'heure, évidemment je pense qu'on aurait un peu de difficulté à dire que le monde a été créé tel jour à telle heure, mais c'est quand même cette conviction-là. C'est-à-dire qu'au fond, la Bible est un ouvrage de science. C'est un ouvrage scientifique. Et toute la difficulté qu'auront les auteurs qu'on a évoqués, c'est d'arriver à proposer d'autres ouvrages, à convaincre leurs contemporains, non pas que ce qui est écrit dans la Bible est faux ou erroné, parce que alors là, pour le coup, bon, ce serait peut-être un peu délicat, mais à tout le moins qu'il faut envisager l'histoire de la Terre et du vivant dans un autre cadre, qu'il y a possiblement un autre cadre dans lequel on peut faire cette lecture.
J'ai une question là, au fond.
Oui, bonjour. Merci pour ces excellents exposés. J'aurais souhaité savoir, par rapport à l'origine de justement cette théorie de l'évolution, qu'est-ce qui se passait aussi au niveau un petit peu international ? Comment c'était perçu ? Est-ce qu'il y avait aussi des idées émergentes dans d'autres pays ?
C'est une question à Pascal ou à Pascal ?
À Pascal.
D'accord. sur l'origine. Alors, vous pouvez préciser un peu, vous parlez en 1859 ou...
Oui, parce que vous nous parlez beaucoup de Lamarck, Cuvier. Ah. Il y a beaucoup de choses qui se passaient effectivement au Muséum d'Histoire Naturelle, mais est-ce qu'il y avait aussi des choses qui se passaient par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y avait des idées qui commençaient à se construire, donc aussi bien au niveau de la paléontologie que de l'histoire de l'évolution?
Bon, pour l'Allemagne, on peut citer Heinrich Braun, qui est un paléontologue. Pardon ? Ah. Alors Heinrich Braun est un auteur qui publie l'extension de groupes dans la dimension géologique sans être évolutionniste. Donc on a des jolis tableaux avec les couches géologiques et puis il montre que tel groupe remonte jusqu'au Cénozoïque, d'autres le dépassent, remontent jusqu'au Mésozoïque et même plus de façon plus détaillée. Et il n'y a pas de parenté entre les êtres, hein, il n'y a pas de filiation. Alors, implicitement, il devrait y avoir une filiation à l'intérieur des groupes, mais il n'y a pas de texte qui aborde cette question. Mais alors, paradoxalement, dans l'œuvre de Braun, il existe un arbre généalogique, à la manière de Haeckel plus tard, théorique, qui a pour but d'expliquer comment les groupes classifiés qui sont inférieurs, puisque quand on fait de la classification à cette époque-là, on pense groupe inférieur, groupe supérieur. Donc les mollusques, par exemple, sont inférieurs aux vertébrés, hein, puisque l'homme est quand même pris comme étalon. Et il explique par un arbre généalogique que certains mollusques, quoique inférieurs, peuvent acquérir des caractères qui les font accéder à des niveaux supérieurs tout en restant dans des groupes inférieurs. Donc il fait des branchements. Mais ce n'est pas évolutionniste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Braun est le traducteur allemand de l'origine des espèces de Darwin. Et il n'a pas été convaincu pour autant par l'ouvrage qu'il a traduit nettement plus fidèlement que Clémence Royer, qui est la première traductrice de l'origine des espèces, que Darwin a explicitement récusé. Bon, Darwin n'était pas très très heureux de la traduction de Braun, mais son avis était nettement plus modéré. D'autres auteurs précurseurs de l'évolutionnisme, en Angleterre, en dehors du grand-père de Darwin, le grand maître de la géologie anglaise, Lyell, 1831, c'est la publication du premier traité moderne de géologie, enfin le premier tome. Lamarck est évoqué, hein. Une réfutation du lamarckisme total. Et Lyell n'écrira de phrases évolutionnistes qu'après la publication de l'Origine des espèces. Alors Agassiz, Suisse, Américain, fondateur du musée d'anatomie comparée de Harvard, tu peux en parler. Ouais. Bah, allez, parle-nous d'Agassiz.
Non, mais j'ai rien à dire sur Louis Agassiz, à part que, au fond, il est à la fois des titres de noblesse dans ton domaine de la paléontologie, et puis qu'il est fixiste et qu'il est même créationniste. Tout ça aussi pour illustrer que, attention, c'est pas parce qu'on a 1859 l'origine des espèces que d'un seul coup tout le monde devient darwinien ou évolutionniste, hein. Notamment par exemple en France, à cause, Pascal l'évoquait à l'instant, de la traduction par Clémence Royer en 1862 de l'origine des espèces, qui a fait beaucoup de mal au fond aux idées de Darwin, puisque Clémence Royer déjà était une personnalité un peu contestée à son époque, matérialiste, tenant des discours contre l'Église extrêmement virulents et qui a, on va dire, traduit d'une manière un peu personnelle l'origine des espèces. Exemple, elle traduit natural selection par quoi ? Par élection naturelle. C'est l'affaire d'une lettre, mais vous sentez bien confusément que derrière, c'est plus que ça. Et dès lors, en France, et je pense notamment à Pierre Flourens, qui était à l'époque le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, c'est-à-dire vraiment la figure qui est incarnée par excellence la communauté scientifique en France, eh bien, Flourens, d'ailleurs, c'est un peu étonnant, mais il va publier, je crois, en 1864, un livre extrêmement hostile, virulent, à l'encontre du livre de Darwin, dont il ne semble avoir connaissance que par l'intermédiaire de la traduction en français. Bon, alors on comprend, mais on peut aussi s'étonner quand même que le secrétaire perpétuel n'ait pas lu l'origine des espèces, pourquoi pas dans la langue originale. Donc c'est compliqué, c'est pas parce qu'en 1859 le livre paraît que les gens vont... Alors Louis Agassiz, typiquement, voilà, lui, il reste fidèle à une vision créationniste du monde. Les espèces ont été créées par Dieu. Donc vous sentez bien que dès lors que dans ces années-là, on continue à admettre que les espèces ont été créées par Dieu, il est impossible, conceptuellement parlant, d'imaginer qu'elles puissent transformer, que les créatures puissent échapper à leur créateur. Dieu, naturellement, crée les espèces d'une manière parfaite. On n'imagine pas qu'il ait travaillé comme un cochon au point que des espèces puissent disparaître, ou qu'au pire, elles puissent ensuite adapter un peu ce qui ne va pas bien. Non. Voilà pour Louis Agassiz.
On peut ajouter un mot, c'est que l'historien des sciences Goulevin Laurent a écrit un gros bouquin qui est sa thèse d'ailleurs sur l'histoire des idées entre 1800 et 1859, notamment en France. Et il a trouvé un texte d'Agassiz assez étonnant où Agassiz raisonne de façon épistémologique pour récuser l'évolution, ou pire encore, pour récuser la nécessité de se situer dans un cadre évolutionniste pour interpréter les fossiles et les actuels. Il dit l'origine des espèces, cette question-là, c'est pas une question scientifique, c'est une question métaphysique. Pourquoi ? Parce que c'est se situer dans la pensée de Dieu lui-même. Et moi, je fais de la science, je ne fais pas de la métaphysique. Donc je suis fixiste. Donc ça, ce raisonnement, enfin, il ne dit pas donc je suis fixiste, mais en fait, les phrases qui suivent aboutissent à cette conclusion. Les évolutionnistes darwiniens veulent rentrer dans un plan divin, et ça, c'est de la métaphysique, ce n'est pas de la science, hein, il ne faut pas mélanger science et théologie. Et donc vous voyez que la difficulté de situer les espaces de réflexion. Alors, est-ce qu'il s'agit de stratégie de la part d'Agassiz, qui est un esprit extrêmement brillant ? Est-ce que c'est un cri du cœur ? Bon, on ne saura jamais. Hein. En tout cas, il l'a écrit comme cela. Alors, je ne sais plus quelle est la référence, mais enfin, elle est dans le bouquin de Goulevin Laurent, qui est un énorme ouvrage. Vous l'avez là ? Donc, ce n'est pas parce qu'on est chauvin hein, qu'on cite Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, ou bien parce qu'on est anglophile qu'on cite Darwin, c'est que ben, ce sont ceux-là, ils étaient peu nombreux à penser l'évolution, indiscutablement.
Oui, vous avez bien situé la naissance du concept de l'importance du temps pour comprendre les mécanismes de l'évolution. Il y a un autre grand principe qui sous-tend la compréhension de l'évolution, c'est le fait que l'environnement et les variations de l'environnement influencent les transformations. À partir de quand cette idée est née et qui l'a émise le premier, que l'environnement, la géographie, les variations de l'environnement, le climat étaient en fait les moteurs de la
On l'observe chez Maupertuis, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. On l'observe et on l'observe déjà très en détail chez Buffon. Chez Buffon, au fond, c'est un des premiers aussi. Alors, difficile, hein, comme toujours, de dire le premier, c'est pas le premier, etc. Mais enfin, vers cette époque-là, au milieu du XVIIIe siècle, Maupertuis et Buffon, qui est l'un des premiers à être sensible à la diversité des faunes selon le nouveau et l'ancien continent. Et qui est déjà sensible à cette dimension. D'ailleurs, c'est en liaison avec sa théorie de la Terre de 1749 ou 1778, puisqu'il imagine que les continents, une fois qu'ils seront apparus, vont ensuite se séparer les uns des autres. Tout est simultané, si vous voulez, dans cette histoire de l'évolution. Enfin, vous voyez bien dans ce qu'on dit, c'est extrêmement difficile, là aussi, d'avoir une réflexion sur, comme ça, absolument linéaire. Les auteurs, en dépit de ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, ne se succèdent pas. Bon, dans le propos, il faut bien parler des uns après les autres, mais au fond, c'est, là aussi, ça serait buissonnant, cette histoire. Il y a vraiment toute la gamme de, d'appréciation, et... pour cette époque-là, au fond, vous voyez, les convictions religieuses sont très présentes, mais assez difficile de savoir par avance, si on n'a pas étudié l'auteur, ce qu'il pourrait penser. Parce qu'il y a vraiment tous les accommodements possibles, toutes les raisons de penser telle ou telle chose, mais pas forcément avec une logique que nous aurions, nous, aujourd'hui. Mais je pense Maupertuis-Buffon pour aimer... si vous voulez, la grande difficulté, ce serait en tout cas de ne pas remonter à Lucrèce ou des choses comme ça. Parce qu'à ce tarif-là, on remonte... alors, on ne va pas remonter à la Bible, pour le coup, mais là aussi, hein, dans les histoires des évolutions qu'on lit... Bon, bien sûr, tous les auteurs de l'Antiquité ont tout dit, hein, mais on est dans un monde conceptuel tellement différent de celui qu'on évoque à partir du XVIIIe siècle que ce n'est pas leur faire injure de dire ça, mais bon, c'est pas légitime, si vous voulez, de remonter si loin dans l'Antiquité, même si...
Vous nous avez expliqué que jusqu'au début du 19e siècle, les auteurs se référaient donc soit à Dieu, soit à la génération spontanée. Je voulais savoir si Darwin s'était positionné par rapport à l'origine de la vie elle-même.
Génération spontanée, je crois.
Oui, Darwin envisage quatre ou cinq formes initiales, peut-être une seule, dit-il. Donc il n'est pas très, très... très clair, mais comme par ailleurs il évoque le Maupertuis et le principe de moindre effort, il pense que c'est plus simple de partir d'une unité et puis d'avoir son buisson. La génération spontanée, c'est l'explication matérielle qui s'impose. Alors, la difficulté, c'est chez Lamarck, manifestement, la génération spontanée, elle fonctionne tout le temps. Et donc là, il y a une ambiguïté dans le lamarckisme vis-à-vis du temps géologique unique. Les êtres inférieurs continuent à se transformer, ce qui est un peu contradictoire avec le concept d'histoire unique. Pietro Corsi, qui est un spécialiste de Lamarck, publie... travaille sur des notes prises par les étudiants italiens qui assistaient au cours de Lamarck. Et Lamarck disait beaucoup plus de choses dans son cours, apparemment, que ce qu'il a écrit dans ses ouvrages. Et il est allé jusqu'à dire que dans les vers intestinaux, il y avait de la génération spontanée et que ça pouvait évoluer pour donner des formes supérieures. Donc, il y avait quand même des faiblesses dans le système lamarckien. Véritablement, l'histoire unique... avec l'accumulation des variations qui sont responsables de la ségrégation des variétés puis des espèces et par la même occasion l'explication des grands groupes, des plans d'organisation par le même mécanisme, c'est vraiment Darwin. C'est vraiment lui qui associe tous ces concepts. Mais évidemment, le point de départ, mais même aujourd'hui, si on admet que la vie vient de l'inanimé, on peut appeler ça une génération spontanée, comment voulez-vous l'appeler autrement, hein? C'est pas le même concept que la génération spontanée début du 19e siècle.
Oui, pour compléter ce que dit Pascal, c'est ça aussi. La génération spontanée, c'est pas, comment dire, bien sûr que c'est une idée inexacte ou autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est vraiment au moteur de ces différentes théories. Il n'y a pas d'autre possibilité, sinon c'est Dieu. Et si c'est Dieu, on est coincé, si je puis dire. Enfin, oui, pour aller vite, j'espère définitivement qu'il n'y a pas de créationniste dans la salle. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Et j'ajoute que vous savez que cette querelle de la génération spontanée, on nous dit toujours que c'est Pasteur qui va y mettre un terme dans les années 1860, etc. Mais Pasteur est profondément croyant, profondément catholique. Et qu'est-ce que ça l'arrange de montrer en deux coups de cuillère à peau que la génération spontanée des microbes, puisque c'est là que se pose la question pour lui, n'existe pas. Vous voyez, on ne souligne pas assez le fait qu'il y a aussi de sa part un certain nombre de présupposés qu'il n'incline pas à aller trop vérifier les thèses de son adversaire, qui par ailleurs est d'ailleurs profondément croyant lui aussi. Donc du coup, ça, voilà. Juste un petit point, puis on va être obligé de faire la pause pour Pietro Corsi que Pascal a évoqué à l'instant. Il est, au fond, c'est lui qui est l'initiateur, mais le projet est parti d'ici, hein, en 1994, de ce vaste projet d'études de voilà, l'Espace Mendès France, de ce vaste projet d'études des élèves de Lamarck, puisque vous savez que Lamarck est toujours un peu maltraité, pas au sens fort du terme, mais enfin, par rapport à Darwin. Et en fait, Pietro Corsi, Goulven Laurent sont des grands spécialistes. Bon, Pietro est italien, comme vous le devinez, mais enfin, il est français aussi. Donc, ce sont les grands spécialistes internationaux, hein, de Lamarck. Et tout cela s'est concrétisé sur le site que j'évoquais tout à l'heure, www.lamarck.cnrs.fr, sur lequel vous avez vraiment le résultat de recherches qui ont été menées depuis une quinzaine d'années grâce au soutien de l'Espace Mendès France. Bon, c'est de la publicité, mais d'un autre côté, c'est pour la bonne cause. Le livre de Goulven Laurent auquel fait référence, malheureusement, il figure pas dans la bibliographie, mais c'est évidemment l'ouvrage de référence sur Cuvier et Lamarck, hein, puisqu'il a étudié les deux simultanément. Mais c'est évidemment l'ouvrage de référence sur ces auteurs. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration de 10-15 minutes et puis qu'on retrouve Guillaume Lecointre après.